WrestleMania, the showcase of the immortals.
Bonjour, bienvenue à l'édition spéciale dans Deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par Lance Pepis de lutte, moi-même TJ Holiday. Aujourd'hui, un spécial WrestleMania 15.
WrestleMania Season?
Oui, WrestleMania Season qui est commencé.
Ça commence, c'est oui. Excitant.
Notre premier de 3 reviews.
Oui.
Avec 8 et 30 qui vont suivre par la suite.
Mais là, WrestleMania 15, là, oui. C'est concept, ça?
Dans quel sens?
On n'a pas fait Saint Valentine's Day Massacre?
Oui, en effet. On vient de le faire sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et Palado Québec.
Ça, c'est le podcast, oui. C'est le pay-per-view qui précédait WrestleMania 15, non?
Exactement.
On dirait que c'est tout arrangé, cette affaire-là.
Ouais, disons que ça aide aussi, oui. Ça, disons que ça a penché dans la balance.
J'aime bien le soleil qui en arrière de toi. C'est rafraîchissant.
Ben oui, c'est beau du soleil. D'autres choses de beau aussi, c'est notre commanditaire, Gourou.
Oh, il est beau.
Oui, la boisson biologique québécoise depuis 1999 en vente partout.
Connais-tu le président de Gourou?
Non. Toi?
Non.
Ah, oui, parfait.
C'est juste ça que je voulais dire.
Ah, d'accord.
Parfait.
Je trouve qu'il est bien fin.
Oui, il doit être beau et fin. Comme sa boisson.
Oui, exactement. Fin en bouche. Bon, et par rapport à ça, notre podcast est disponible où, mon cher Marc?
Ben, tu viens de le dire.
C'est pas grave, tu peux répéter.
OK. Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec et Podbean.
Oh, Podbean!
Parce que c'est
avec Monsieur Bean.
Monsieur Bean, ouais, non, c'est pas le même, ça.
Ah, OK. Tu disais?
Je disais WrestleMania Season, c'est excitant parce que même si les storylines sont ou les matchs sont poches avant, je ne parlerai pas de Fastlane, mais même si ce temps-là est moins excitant pour les matchs parce qu'on connaît un peu les résultats, il y a plein d'affaires qui est le fun sur le network, entre autres. Tu as des documentaires, tu as des 24-7 WrestleMania, c'est ça, documentaires, plein de podcasts. Justement, le podcast de Stone Cold avec Randy Orton.
Le 21 mars, oui.
Oui, je vous le conseille fortement.
21 mars, c'est pas quelque chose qui se passe cette journée-là aussi?
Le 21 mars? Non, il se passe rien.
Mais non, notre grosse annonce!
Oh oui, je m'excuse, oui, on a une grosse annonce, c'est vrai, le 21 mars. Hey, tabarouette!
En même temps que le podcast de Randy, ça tombe bien.
Ben, tu sais, une grosse journée. Randy, j'ai demandé, tu sais, je l'ai appelé, j'ai dit, ça te dérange-tu qu'on passe notre annonce? Ben, c'est correct, là. Je m'en vais avec.
Il va te punter un moment donné, t'en rends pas compte.
Ouais, sûrement.
Ben non, ben, c'est ça, ben, c'est une annonce spéciale le 21 mars, qui est restée à l'affût sur Facebook.
Oui, ça va se passer là.
Exactement. Fait que c'est ça, avant de passer là, avant l'annonce, ben, c'est vrai aussi, avant de commencer avec le review de WrestleMania 15, pour oublier que Dave va se joindre à nous à la fin du podcast pour un quiz spécial, encore une fois.
J'ai déjà hâte de perdre.
Ah, on ne sait jamais. Mais il y a des gros chances, oui.
Lucky shot. On ne sait jamais.
Ben oui, lucky shot. Quand ça fait ça 25 fois, là, c'est plus des lucky shots.
Si jamais tu perds, tu vas-tu détruire tout ton décor?
Ben, à un moment donné, je vais perdre. C'est sûr, je gagnerai pas, là. Mais non, je risque d'être correct. Je vais être sur le choc au début, mais je vais être correct.
Fais comme moi, quand je veux avoir quelque chose, tu dis le contraire pour pas que ça arrive.
Je vais le perdre, je vais perdre le quiz.
OK, parfait.
Mais non, pas besoin de jinxer ça de même.
Oui.
Bref, WrestleMania 15, The Raging Climax. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce temps-là aussi, hein?
Ouais. Finalement, tu chialais pour rien, ça a toujours été le même.
Ben, pas tout le temps. Pas pour tous les pay-per-views. WrestleMania, OK, là, whatever, là. Mais il n'y avait pas de. Il y avait In Your House, il y avait des titres In Your House, mais c'était pas vraiment In Your House, c'était plus le titre qu'il y avait. Là. Mais
bon. J'ai un titre en tête. Je pense que c'était un WrestleMania ou un In Your House Deadly Game?
C'est ni un ni l'autre, c'est un Survivor Series.
C'est Survivor Series, OK.
Le tournoi, le gros tournoi pour la ceinture, avec The Rock. Le shoe job numéro 2.
Un an après.
Oui. Fait que ça, WrestleMania 15, il y a eu le 28 mars 1999 en direct du First Union Center de Philadelphie.
Bon, souvent à Philadelphie, hein?
Ouais, il y a des villes qui reviennent souvent, là. New York, Philadelphie, Toronto arrive souvent aussi. Il y en a d'autres, Chicago, il y a plein de places en même.
Mm-hmm.
La chouchou.
Ben, c'est des bonnes foules, là.
Ouais. Puis l'aréna des Flyers de Philadelphie à cette époque-là.
Oui, c'est vrai. Ben, ouais, c'est encore le même aréna, non? Hein, ils ont changé.
J'en doute très fort.
Mm.
Sûrement qu'ils ont déménagé. Là. Bref, puis pour la chanter l'hymne nationale d'aujourd'hui, en VPU, c'était Boys to Man.
Oh yeah!
Boys to Man, pardon.
Mais oui.
Cette fois-là, je ne chanterai pas de tune d'eux autres. Là.
Ah ouais, juste un petit extrait.
J'en connais même pas une.
Non?
Non.
Hmm.
C'est legit, j'en connais pas une, Chris.
Okay, je mettrai un extrait de Boys to Man.
Parfait. Okay. On va commencer avec un magnifique vidéo avec Classy Freddy Blassie.
Oh yeah!
La fameuse vidéo là où il parle des. C'est dramatique, là, puis c'est en noir et blanc, puis il parle de son. Dans le passé, qu'est-ce qu'il faisait, puis WrestleMania, c'est encore plus gros qu'est-ce qu'il y avait dans son époque à lui, puis patati patata. Ouais. C'était produit par David Sahadi, un qui faisait beaucoup de vidéos à la WWF dans le temps, qui était excellent, évidemment. Encore aujourd'hui, WWE, leurs vidéos package sont excellents.
Mm-hmm.
C'est une affaire qu'on ne peut pas leur enlever, c'est bien ça. Puis après ça, il a été TNA par la suite. Puis, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il est encore avec Impact Wrestling, mais je ne suis pas sûr de ça. Il
va bientôt aller avec AEW.
On ne sait jamais.
Mais oui, c'est ça. WWE, toujours les packages vidéo puis la musique, ça a toujours été leur force. Là.
Mm-hmm.
Par contre, depuis qu'ils ont perdu Jim Johnston, ça bat de l'aile un petit peu, je trouve.
T'es pas un fan de CFO?
Non. Je suis gros fan de Jim Johnston. J'avais même les albums, ben, toi aussi. Là. À l'époque, ouais. On achetait les cassettes puis les albums. La cassette, parce qu'il y avait juste... C'était quoi la première? Celle que tu avais, là?
Pour Metal, The Album?
Oui, exact.
Oui, que je t'avais acheté.
C'est vrai que tu m'avais acheté ça en cinquième année.
Oui, j'étais venu chez vous juste pour chercher ça, puis je suis reparti.
Tabarnak. Ça, c'était le bon temps.
Oui. Ouais. Que j'ai plus depuis, là. Je l'ai rendu avec le CD, qui est juste en arrière de mon laptop, que vous ne voyez pas. Il est là. Puis, c'est ça. Fait que match meilleur de la soirée, yes. Pour le championnat hardcore, un match triple threat avec Billy Gunn, le champion, Hardcore Ali, et Al Snow. Fait évidemment, comme on avait dit au massacre de la Saint-Valentin, qu'on a fait il n'y a pas longtemps, wink, wink, clin
d'œil. La semaine passée, en fait.
Oui, c'est ça.
Attends, non, c'est Blood 2 semaines. Excuse-moi, Blood 2 semaines.
Puis c'est ça. Puis il y a eu Road Dogg qui était en rivalité avec Al Snow.
Mm-hmm.
Tout le long du build-up, c'était censé être Road Dogg à place de Billy Gunn dans le match. Mais à la dernière minute, un show avant, ils ont switché la position de place. Fait que c'est Billy Gunn qui a pris la place de Road Dogg et Road Dogg, plus tard, a pris la place de Billy Gunn. Pourquoi? Ben, c'est pas parce que Vince Russo doit se bien comique. Une swerve, bro.
À noter les superbes culottes de Billy Gunn, rose, flash, pétant.
Ben, Billy Gunn n'a jamais eu peur du ridicule, hein?
Pourquoi c'est ridicule quand tu portes du rose? Moi, j'en ai porté du rose quand je faisais de la lutte.
C'est vrai.
J'avais-tu l'air ridicule? Non, réponds pas. Réponds pas. Continue.
Well, c'est ça.
OK.
Puis évidemment, qui dit match hardcore d'Attitude Era dit match hardcore d'Attitude Era avec beaucoup d'objets, des punch-shots, des spots de table.
Ouais.
Un moment donné, il y a un bâton de hockey qui est arrivé dans l'équation. Que Michael Cole a dit que Lindros a perdu son bâton à l'aréna.
Mm-hmm.
Très drôle.
Ben oui.
Bon, ouais. Puis ça, en bout de ligne, ce qui arrive, c'est que Billy Gunn fait son famouser à Hardcore Ali, à Al Snow sur une chaise.
Ouais.
Et quand il fait le pin, malheureusement pour lui, Bob Ali hardcore. Pour les intimes.
Ouais.
Il a frappé avec un couche-chaise dans le dos pour casser le pin. Il a pris la chance de piner Al Snow 1-2-3 pour la ceinture et il a réussi.
Ça, c'est un peu comme finish pour un hardcore. Je sais pas. Là. Non?
Ben, t'en penses, là? C'est pas si pire que ça. Là.
Ouais. Mais d'ailleurs, le monde qui connaisse ou plus ou moins Hardcore Ali ou Al Snow ou qui pense que oui, c'est des jobbers, mais évidemment, la job quad. Mais. C'est quand même du monde qui faisait des bons. Al Snow, je l'aime un peu moins, mais Hardcore Ali, moi, je trouve à part qu'il est vraiment stiff, il est solide dans le ring. Là.
Mais Al Snow, avant d'être un lutteur vraiment hardcore, là, comme qu'on connaît aujourd'hui,
ouais.
C'était un bon lutteur technique pour elle, pour sans joke. Là.
Ouais, c'est vrai. Il a fait quelques trucs. Là.
Ouais, même un moment donné, avant Al Snow, il était Leaf Cassidy.
Okay.
Une moitié des nouveaux Rockers avec Marty Jannetty, notre chum Marty.
Ça demande pourquoi ça n'a pas marché.
Ouais, mais en même temps. Il faisait des matchs souvent en solo, puis il faisait de bons matchs. À un moment donné, il y a un pay-per-view contre Mark Merrow. Il a fait un maudit bon match pour un ouais. Match qui n'a rien dire.
Ah, mais c'est Mark Merrow qui a tout fait. Là. On s'entend.
Oh, sans aucun doute, ben oui.
T'es pas un fan de Mark Merrow, toi.
Le Mercuriel! Ben, c'est pas que je suis pas un fan, juste qu'il n'est pas si bon que ça.
Hey, Al Snow, d'ailleurs, il était apparu dans AEW Revolution, dans la foule.
C'est vrai, il était dans la foule. Je pense qu'il c'est pas un
producer.
Ouais, là-bas, je pense que oui.
Ouais.
Puis aussi à la. Je pense que c'est. Ohio Valley Wrestling, c'est genre leur club école, je pense aussi.
Ouais, je savais pas qu'il y avait un club école.
Ben, c'est lui, Arsenal, c'est lui le boss de la OVW, là, la place que dans le temps, il y avait les lutteurs comme John Cena, Batista, puis tout ça qui ont fait leur marque avant de B.
Ouais.
Puis il y a un autre gars aussi que le nom m'échappe.
Il est Randy Orton, c'est ça?
Ouais, ça. Je connais pas ce gars-là.
Mm-hmm.
Puis c'est ça, non? Puis disons qu'Arsenal, il a une bonne tête de lutte, là. Puis nice. Comme je disais tantôt, avant de devenir super hardcore, comme on connaît aujourd'hui, ben, c'était un bon lutteur.
T'as aimé l'opener? Moi, j'ai trouvé ça correct quand même.
Ouais, c'était un match hardcore, là. Il n'y a pas 26 000 affaires à faire là-dedans, mais je trouve que c'est toujours mieux ça qu'un match single normal où il y a des chin-locks en plein milieu. Puis...
Genre Blue Man Eagle Dust, là.
Genre, ouais. Un upgrade de show en show. Fait que c'est ça. Toi, le match, tu l'as mis aussi?
Ben, je trouvais qu'il y avait un bon pace pour un hardcore. C'était un petit peu plus rapide à cause de Osno et Billy Gunn. Ben, Osno a toujours été quand même proactif, là, mais je parle Billy Gunn, il est quand même rapide dans le ring. Il bouge bien quand même. Là. Je sais que c'est pas un de tes préférés, mais je trouve qu'il fait la job. Là.
Billy Gunn, tu parles?
Ouais, il a un charisme très limité. Là.
Ah non, Billy Gunn, moi, personnellement, j'ai rien contre lui. Là. C'est juste que c'est pas le je dirais pas que c'est un lutteur préféré. Là.
Maintenant, c'est pas le lutteur préféré de tout le monde, hein, Dave?
Non, c'est ça. À tantôt.
Oui.
De toute façon, on voit de Sunlight Heat plutôt dans la soirée. La fin d'une batteur royale pour un combat de championnat par équipe. Dans le fond, il y avait 20 lutteurs. Et les deux derniers étaient en équipe pour affronter les champions défendants, Jeff Jarrett et Owen Hart avec Debra. Puis à la fin, c'était Droz et Goldfather qui sont éliminés eux-mêmes. Ça fait que ça a laissé Test et D'Lo Brown dans le ring. Test la Corporation et D'Lo Brown, évidemment.
Nation.
C'est ça. Ben, moins Nation qu'avant. Je pense que c'est vraiment les deux derniers qui restaient. Là.
Ouais, quand j'ai écouté le pay-per-view, je me demandais pourquoi Test et D'Lo Brown étaient en équipe. Je n'ai pas suivi non plus ce qu'ils disaient vraiment.
Parce que c'est Ben Soufou qui a voulu faire ça.
Ouais.
Puis, on se rappelle qu'au vu d'avant, le massacre, ben, c'était D'Lo Brown et Mark Henry qui avaient affronté Jarrett et Owen Hart. Mais à la fin du match, Mark Henry a mangé un coup de guitare dans la jambe.
Mm-hmm.
Fait que je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils ont pas fait un match Mark Henry et D'Lo en rematch contre les deux autres ou ils ont juste fait ça de même parce que je sais pas.
En même temps, il aurait pu mettre bien les affaires. Il aurait pu mettre deux gars de la Nation puis deux gars de la Corporation dans un, mettons, two-way dance pour la ceinture.
Puis en même temps, ça donne une chance à tout le monde d'être sur la carte. Là.
Ouais, puis Tess, c'est cool. Tess puis D'Lo, c'est quand même deux papiers lutteurs. Là.
Ouais, pour vrai. Tess, un peu moins dans ce temps-là. Il commençait là, à cette époque-là, mais non, il est devenu solide vers la fin.
Mm-hmm.
Match numéro 2. Pour le championnat par équipe de la WWF, les champions défendants, Jeff Jarrett et Owen Hart avec Debra, ont affronté Tess et D'Lo Brown avec Ivory. Puis, la taille de Debra était géniale pour un garçon de 14 ans à l'époque.
À quel âge Debra aujourd'hui?
Je ne sais pas.
Elle avait au moins dans 60-65, non?
Même dans ce temps-là, elle avait pas l'air jeune dans ce temps-là non plus.
Je vais faire une recherche, voir. Je ne sais pas si ça intéresse du monde, mais moi, ça m'intéresse.
Ouais. Ben, pourquoi pas?
Je vais faire une recherche pendant qu'on continue à parler.
Oui, pendant ce temps-là, ben, le match, c'est comme le classique, là, vu que Tess et D'Lo Brown, c'est pas des partners, puis ils s'aiment pas, puis il y a un heel, puis un face. Ben, le but de l'affaire du match, c'est qu'ils se font des blind tags, ils sont pas confiants, ils s'engueulent.
Ouais.
Puis c'est ça, puis éventuellement, D'Lo Brown, il arrive de quoi avec Ivory et Tess à l'extérieur du ring, puis les deux commencent à chicaner.
Mm-hmm.
Dans le fond, c'était Debra qui était commencé à écœurer Ivory, puis les deux commençaient à chicaner, fait que Tess était venu les séparer. Puis c'est là qu'il a dit, elle met toutes tes affaires à Ivory. Puis là, D'Lo Brown était le voir, puis ils ont commencé à s'estiner. Puis évidemment, ils ont commencé à se battre avec l'extérieur du ring, puis ils ont fait count out.
Ben, moi, j'ai rien contre des count out d'une fois de temps en temps. Ça fait différent. Là. C'est sûr que pour un WrestleMania, ça peut être vu comme un peu plus ordinaire. Là.
Et je pas m'excuse, dans le fond, c'est pas un count out qui est arrivé. C'est après qu'ils ont commencé à se battre avec l'extérieur du ring. C'est au fond, il y a eu Terry et Jacqueline qui sont arrivés. C'est là qu'ils ont commencé à chicaner, puis là que Tess est occupé avec les deux, avec en train de tout séparer tout le monde. C'est là que Jeff Jarrett en a profité pour faire un jackknife pin à D'Lo Brown avant que. Juste avant ça, Warner avait fait un missile
de pin à D'Lo. Ouais, c'était beau en crise comme finish, ça.
Un beau finish d'équipe, fait que c'était assez pour la victoire.
Moi, j'aime bien l'équipe de Jeff Jarrett au Warner, je trouve que ça fit bien. Ben, Owen Hart pourrait fitter que n'importe qui. Là. Il aurait pu fitter que n'importe qui. Mais son suit était tellement dégueulasse. Là. Le suit jaune de Owen Hart avec Danger. Là,
c'est vrai qu'il était pas très bon.
C'est dégueulasse comme suit. Il aurait dû garder les couleurs, là, en fait.
Ouais, mais il voulait faire différent, ça a l'air.
Il voulait se démarquer peut-être des Hart, si on veut.
Peut-être garder, enlever le pick and black, peut-être. Moi, j'avoue ça a du sens.
Mais ouais, excellent finish. Puis pour les fans de Dave Meltzer, ben, Terry Reynolds était dans le match. ceux qui comprennent pas, allez écouter les autres.
Oh,
c'est un inside.
Un inside plate, oui.
Bon.
Ben, puis le match, l'as-tu aimé?
Oui, correct.
Oh, ouais, c'était correct. Juste que disons que.
On savait là, qu'est-ce qui allait arriver. Là,
ouais, mettons... c'est juste ça aurait pu faire, il aurait pu faire ça à Raw, genre, ou n'importe quelle autre place. Là, il aurait pu faire ça à, même à Heat avant, juste après Battle Royale, les autres arrivent pour faire le match, puis ça, that's all. Là.
On savait, mais même à l'époque, avec Rousseau, il aurait bien pu faire gagner Chess puis D'Lo
out of nowhere. Ouais, les champions qui s'aiment pas. Là.
Mm-hmm. On n'a jamais vu ça avant. Ça, puis les contrats, les signatures de contrats, là, à chaque semaine ou à chaque mois. Là.
Ouais, c'est vrai. Après ça, on a un vidéo package sur Bart Gunn.
Oh.
Et pour ça, en préparation, qu'on s'en match contre Butterbean, un combat de boxe. Puis, il a montré évidemment le Brawl for All que Bart Gunn a remporté, qui a détruit tout le monde, son passage, sauf une personne. Qui n'a pas détruit?
Butterbean?
Ben oui, aussi, mais il n'était pas dans le Brawl for All. Je parle dans le tournoi Brawl for All.
C'est qui le dernier déjà? Jean Blanc.
Le dernier de quoi?
Celui qui n'a pas détruit, t'as dit?
Ah, mais c'est en première ronde. Il avait affronté son ancien partner, Bob Holly. Puis ça a été à la décision des juges. C'est le seul gars du tournoi qui n'a pas knock-out, Bart Gunn.
Ouais, en même temps, ça aurait été un peu bizarre qu'il knock-out Bob Holly, qui est considéré comme un des plus titres de la business. Là. Est-ce que c'était stagé, ça?
Non.
Non?
Non, c'est frappez-vous, puis le gagnant gagne, puis c'est tout.
Ah ouais.
Oui, parce que c'est pour ça qu'il y avait de la controverse cette affaire-là, parce qu'il y avait Dr. Death Steve Williams qui était là dans le tournoi, puis c'était genre le grand chum de JR qui était dans les Talent Relations dans ce temps-là.
Ouais.
C'était, dans le fond, c'était son forum à lui pour gagner le tournoi, puis avoir une feud contre Stone Cold Steve Austin plus tard dans l'année.
Mm-hmm.
Tough SSOB contre Tough SSOB, genre.
Ouais.
Puis évidemment, c'est là qu'il s'était blessé dans son combat contre Bart Gunn. Je pense que c'était Terry Quad, je pense. Puis évidemment, à cause de ça, ben Bart Gunn a profité pour le knockout. Puis disons que ça a l'air que ça a donné beaucoup de heat à Bart Gunn backstage à cause qu'il a knockout le boy de Jim Ross.
Mm-hmm.
Même si tout le monde était bien content, les lutteurs étaient bien contents backstage qu'il l'ait fait parce qu'il voyait bien qu'il le mettait sur un piédestal à cause de Jim Ross.
Mais j'espère, il était mauvais.
Ouais, je sais bien. Ben,
j'aurais pas aimé ça qu'il se batte contre Austin, surtout que Austin était champion dans ce temps-là.
Ouais, c'est un tough guy, là, un roughneck, là, un peu le même style que Stone Cold. Là, c'est juste que c'est facile à dire là parce qu'on ne l'a pas vu. Mais peut-être que ça aurait été fait de quoi de bon, peut-être, si ça aurait vraiment arrivé. Là.
Merci, Bart Gunn. Mais moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, le tournoi, zéro intérêt. Là.
Ouais, mais à l'époque, c'est quelque chose de bien stupide que le monde, tout le monde encore bâche sur Internet. Mais quoi que c'est, cette fois-là, c'est voulu. Là.
Ouais.
C'était venu d'une idée de Vince Russo qui il avait entendu Manny Bradshaw dans un bar qui fait trahir à tout le monde. Il a dit « Ah, ben j'ai une idée, on va faire ça de la TV. » Fait qu'ils ont gaspillé plein de temps d'écran de télévision, puis ils ont blessé plein de monde legit, puis c'est ça.
Fait que ça, tu me disais quand c'était pas une bonne idée de ramener Vince Russo.
entre autres. Exhibit A.
Ouais.
Fait que match numéro 3, un Brawl for All avec Bart Gunn qui affronte Butterbean.
Pour ceux qui connaissent pas
Butterbean, dans le fond, c'était un tough man. Bon, il est un peu gros, il est short, USA, puis il a le coco rasé.
Mm.
C'est quand même un gars assez bâti. Là. Il n'a pas des muscles, là. Il est bâti avec beaucoup de poids, mais
il frappe fort.
Ouais, c'est ça. Et l'arbitre du combat est Vinny Pazienza, un ancien boxeur champion 5 fois, incluant les titres junior middleweight et super middleweight de la IBC.
Ah, ben, tu as fait tes recherches.
En effet, oui.
Oui.
Et les juges, il y a M. Kevin Rooney, un ancien entraîneur de Mike Tyson.
Ben oui, c'est. Je
savais
c'était
c'est
qui.
ça, là.
Mais non, je savais c'était qui.
Ah, ok, ok. Monsieur Chuck Wepner.
Je lui connais pas.
Dont les films Rocky ont été basés sur sa vie à lui.
Oh!
Ouais. Ben, tu sais, ils ont embelli pas mal le record d'histoire quand même, mais c'est, ça, la base, ça venait de lui. Et pour terminer, les juges, Gorilla Monsoon, qui était gravement malade à l'époque. Était vraiment il avait quasiment la peau sur les os, quasiment.
Il était sur le bord.
Ouais, c'était sa dernière apparition à la WWE avant qu'évidemment il décède pas longtemps après.
Ça, c'est pas le fun pour sa carrière. La dernière apparition à un combat Butterbean contre Bargain.
Ben non, mais il a quand même eu la chance d'avoir une dernière grosse ovation de la foule. Puis,
ouais.
C'est le fun.
D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. J'ai fait mes recherches. Debra a 61 ans aujourd'hui. Donc, ça fait quoi?
22 ans, ça.
Oh, tout ça. Fait qu'il était dans la quarantaine, ouais.
Elle apparaissait cet âge-là. Pas méchant, là, mais apparaissait cet âge-là.
Elle a peut-être abusé un petit peu trop des cabines de bronzage, après moi.
Peut-être.
OK.
Puis, quelque chose qui n'est pas le fun, par exemple, c'est le match.
Yes.
Surtout pour Bargain.
Ouais.
Ouais, parce que Bargain, en tout cas, c'est pas du spoiler rien, mais ça a duré 37 secondes. Bargain a été knock-out solidement par Butterbean, deux fois en plus. La première fois, il était capable de se relever, mais il n'était pas tout là quand même. Fait que je ne sais pas pourquoi ils ont essayé de continuer. Mais il était debout. Puis disons que le deuxième coup, ben, il était sur Dream Street.
Ça, c'est une des raisons pourquoi que le monde bon souvent bâché sur la WWE, WWF à l'époque, c'est que des affaires de même qui n'ont pas lieu d'être, c'est supposé être quand même un safe space dans le sens où ils se donnent pas moins 200 quelques jours par année.
Mm-hmm.
Puis là, tu as une idée d'un génie créatif qui dit « Tu vas te faire un hockey ou tu vas te battre contre un gars que c'est son métier de boxer, tandis que moi, je suis un entertainer. » Pas mal différent.
En même temps, il a gagné un concours de boxe legit. Fait que,
non, je sais, mais...
Je comprends.
Ouais, mais il a gagné un concours de boxe contre du monde qui boxait pas.
Je sais bien, mais regarde, après ça, il... Entre le Brawl for All et ce match-là, ben, il s'est entraîné beaucoup, beaucoup, évidemment, pour ce combat-là. Tu sais, dans boxe ou dans UFC ou n'importe quoi, des fois, là, c'est pas nécessairement, si t'es pas si bon que ça, tu peux gagner pareil. Là. Juste un lucky shot, puis le gars est knockout, puis la tête d'attente. Le combat est le meilleur gars au monde. Là.
C'est comme si moi, j'avais un combat d'exhibition contre Picasso, puis le lendemain, je me battais contre Jean-Pascal. C'est sûr, je vais me faire péter à gueule.
Picasso. En tout cas, après, un point Jean-Pascal, tu vas ressembler à Picasso pas mal, en tout cas.
Ouais, c'est ça. Ben, le nez rouge.
Pas tout de suite, ça, c'est plus d'hiver, ça.
Ok, parfait.
Après ça, en parlant de nez rouge, le San Diego Chicken vient par la suite faire une fausse bataille avec Pazienza. Et c'est pas la dernière fois qu'on va voir le Chicken de non. San Diego ce soir.
Oh non.
Après ça, on voit Sunday Night Heat, Big Show attendre dans le parking lot. Il attend Stone Cold Steve Austin de pied ferme. Puis évidemment, pendant qu'il l'attend, il y a Mankind qui vient le voir puis il commence à se frapper. Puis évidemment, pendant qu'ils se battent, Austin passe par en arrière. Classique.
Ouais.
Après ça, Interview Time avec Kevin Kelly qui est avec Mankind.
Kevin Kelly qui est maintenant à la Ring of Honor, hein, je pense.
Oui, puis il fait les shows du Japon aussi.
Cool.
Dans le fond, Mankind dit qu'il a tout fait ce qui était demandé pour arbitrer le main event. Il a battu Taker, il a battu Austin, même si Vince il a mis un autre. Puis Austin, même si Vince a mis Big Show comme obstacle à lui pour gagner le match de ce soir pour être l'arbitre officiel du main event.
Ouais.
Puis il dit qu'il est allé d'être un bon gars. Puis que Big Show va pas avoir un nice day.
Ça, c'est le road to je suis un giant jambon part one.
Match numéro 4, Big Show contre Mankind, où le gagnant devient arbitre pour le main event de ce soir pour le title match. Puis, c'est fait bizarre de voir Big Show arriver avec le tune de Vince McMahon, même s'il était dans la corporation.
Avec sa couette et tout.
Ouais, sa couette, puis c'est juste ses petits shorts, là, pas de Denis pas de rien.
Ouais.
Puis, dans le fond, ce qui arrive, c'est que Mankind, il mange la volée pas mal tout le long. Là. Big Show, il manie le pitch d'un steps, puis Mankind, il fait un flip par-dessus les steps quasiment tellement que l'impact est fort.
Classique Mankind.
Ouais, Mané, il fait Mandible Claw, puis Big Show, il l'a sur son dos, puis il tombe avec.
Ouais, c'était cool, ça, ce match-là.
Puis la fin du match, ben, dans le fond, mais Big Show stand, puis il va pogner deux chaises de métal. Puis il fait un chokeslam à Mankind entre les deux pour la disqualification.
Ouais. C'est à ce moment-là que Vince arrive?
Après le combat.
Et voilà.
Monsieur McMahon arrive pour confronter Big Show. Il lui dit qu'il se fout que Mankind soit blessé après le chokeslam sur des chaises. Mm-hmm. Mais il vient de scraper son main event parce que ça va être Mankind l'arbitre. Parce que lui, il voulait que ce soit un gars de la Corporation, évidemment, pour arbitrer le combat.
Ouais.
Puis Big Show tente de s'en aller, mais McMahon l'en empêche. Puis après ça, il pointe du doigt et dit que c'est un nobody. Puis lui, c'est Vince McMahon, damn it! Puis évidemment, Big Show le prend par la gorge, puis il fait un chokeslam, mais il change d'idée. Il le dépose. Puis Vince, pour dire sa gratitude, ben, il slappe la face. Et puis, tu sais, quand t'as gagné la bataille, là, autant, là, ouais, laisser partir. Là. Puis Big Show le peint, puis il fait son knockout punch, qu'il va utiliser ben, beaucoup d'années plus tard comme finish.
Ouais.
Il y a knocké Vince qui a fait le fameux sel de M. McMahon avec les yeux grands ouverts, puis malade.
Mais tu sais, c'est tellement stupide comme, comme direction. Le gars, il arrive, le Giant arrive comme un mois avant.
Mm-hmm.
Gros impact, attaque Stone Cold. A l'air d'un jambon quand il fait perdre Vince. Là, encore, il a encore l'air d'un jambon parce qu'il se fait disqualifier dans une affaire importante. Frappe M. McMahon. Tu sais, en l'espace d'un mois. Déjà là, tu le scrapes, là, tant qu'à moi. Là.
Ben, il a vraiment scrappé dès le début, tant qu'à moi. Là.
C'est ça, c'est direct là, là. Puis après ça, c'était quoi? Il s'en allait. Ben là, il a eu son match. Après ça, il s'en allait. C'était. C'est quoi qui s'est passé après?
Ben, il était. Ça, il est tourné Babyface après ça.
Ouais, c'est ça. Ça n'a aucun sens. Là.
Dans les Babyface, il y avait The Union avec Tess, Shamrock et Mankind. Leur faction qu'il y a eu un petit peu plus tard. Puis après ça, il a fait un. Il y avait un spot avec lui, c'était lui. Puis Austin était à Raw. Puis il avait baissé le Titantron avec ses mains.
Ouais, c'est vrai.
Tu te souviens
de ça? Ouais, ouais, ouais.
Puis Austin avait détruit avec une hache après le Titantron. Puis éventuellement, après ça, Big Show a tourné heel puis avec Undertaker.
Ça, c'était cool.
Ça, c'est arrivé un petit peu après le match qu'il y avait eu à Raw Mané, puis Big Show a fait un chokeslam à Taker qui avait détruit le ring.
Ouais.
Première fois qu'on voyait ça. Puis après ça, il a fait un heel turn, puis il a fait un face turn, puis un heel turn, puis un face turn.
Pendant 20 ans de temps. Puis,
c'est ça, exactement.
Ouais. Ça a amené à une belle longue carrière où que il se faisait traîner dans le cimetière avec son père. Il faisait traîner le cercueil à son père dans le cimetière, entre autres, par Big Boss Man.
Ouais. Parlant de Big Boss Man, on en parle plus tard, mais de quoi yeah. De assez épique qui arrive tantôt.
Oui, tu m'en parles tout le temps. Hein? Tu me dis tout le temps. Ouais, tu aimes bien ce spot-là, toi.
Ben, c'est parce que tu m'as dit t'as fait un heure, quoi. On va en parler tantôt.
OK, parfait.
C'est Vince en arrière avec les Stooges, Patterson et Briscoe. Puis il demande les Stooges demandent quoi faire vu que c'est Mankind l'arbitre. Puis là, il dit qu'il ne sait pas, mais qu'il veut un téléphone mobile tout de suite pour appeler la police. Because I want that son of a bitch arrested for assault.
Un téléphone mobile avec une antenne ou non?
Aucune idée, ils l'ont pas sorti. Je doute que c'était avec une antenne.
OK.
Match je numéro 5. Hein.
Je ne sais pas, moi je m'informe.
C'est vraiment de conseil avec le prochain match. Pas vraiment un match qui va passer à l'histoire, celui-là, celui qu'on a de White, Mankind et Big Show. Là.
Ben, un match qu'on s'attendait, là, Mankind qui mange la volée.
Des gros bombes.
Big Show, c'est ça. Big Show a l'air strong comme il devrait l'être, puis il a l'air d'un épais à fin comme il n'aurait pas dû l'être parce que Vince s'est booké un géant à comparativement à la WCW.
C'est vrai. Mais bon. Puis, c'est ça. Puis moi, comme j'ai dit, c'est pas une collection de gros spots pour Mankind qui met que Big ouais. Show a l'air d'un monstre en même temps. Mm-hmm. Pas mal pour rien.
Ouais, c'est ça. Exact. Il a l'air d'un monstre pour rien parce qu'au bout de la ligne, il face turn, heel turn. Là.
Ouais. Ben, ça change que pour le main event, il n'y a pas d'arbitre parce que Mankind est parti en civière juste avant ça aussi. Pas noté, mais. Fait que là, il n'y a pas vraiment d'arbitre pour le main event de ce soir. Fait qu'on va voir ce qui va arriver avec ça plus tard.
À chaque fois que Mick Foley est parti en civière, on n'aurait jamais dû prendre ça pour acquis dans un show de lutte parce que c'est genre le pire gars que tu peux envoyer en civière.
Oh ouais.
Dans le sens qu'il va toujours revenir. Là. C'est comme ouais. Lui et Dean Ambrose, tu sais, que. Fait que, oh mon Dieu, on les a éliminés là, parce que Dean Ambrose, c'est comme un peu le nouveau. Ben, Moxley, je veux dire. Là. C'est ouais. Un peu le nouveau Mick Foley dans le sens que c'est un tough son of a bitch, un peu. Là.
Oh ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Fait que, c'est bon. Ça.
En tout cas.
Ouais.
Match numéro 5. Un match Fatal 4-Way. Elimination Fatal 4-Way. Le prochain match intercontinental avec le Road Dog qui affronte Ken Shamrock, qui affronte Val Venis et Goldust.
Moi, je ne veux pas voler de punch, là, mais... Ouais. Oui. Vas-y. Non, vas-y.
Goldust qui est accompagné de Ryan Shamrock et de Blue Meanie. Bon, yes. Évidemment, le show qu'on avait vu, oui, ouais. Shamrock était avec Val Venis.
Mm-hmm.
Et Blue Meanie était contre Goldust. Mais entre le massacre de Saint-Valentin et WrestleMania, ben, il y a une alliance avec Blue Meanie et Goldust. Mm-hmm. Puis évidemment, Shamrock avait des sentiments pour Val Venus qui ne voulait rien savoir, fait qu'il est parti avec Goldust.
T'as dit Shamrock avait des sentiments pour Val Venus?
Ryan
Shamrock. OK, Ryan Shamrock, OK, pas Ken. Ouais.
Parce que je viens de parler de Ryan Shamrock là, pas longtemps.
Ouais, je sais. La très jolie Ryan Shamrock.
Oui. Puis au dernier review qu'on a fait du massacre à la Saint-Valentin, j'avais dire de quoi sur Ryan Shamrock que j'ai pas dit, que j'ai oublié, mais je vais le dire à la fin du combat. Rappelle-moi-les.
OK, je vais te le rappeler.
Parfait. Fait que c'est ça. Puis évidemment, comme tu dis tantôt, ben, c'était au début, c'était Billy Gunn qui était censé être dans le combat à la place de Road Dogg, mais ils ont fait le petit switcheroo une semaine avant à Raw.
Mm-hmm.
Puis c'est ça.
Moi, je ne veux pas prendre de punch, là, mais c'est un de mes matchs préférés.
Il est bon,
c'est un bon match.
Puis Jerry Lawler dit à Michael Cole, tu comment t'appelles ça une belle femme à Philadelphie?
Comment?
Une touriste. J'ai bien aimé ça. Fait que c'est ça, un match Fatal Four Elimination. Disons qu'il y a beaucoup, beaucoup de spots.
Oui. Bon pace.
Oui. Évidemment, Goldust a pris l'avantage au début sur Val Venus. Ça, il y a eu beaucoup d'affaires, beaucoup de moves en équipe avec des alliances qu'on ne se douterait pas. Ouais. Shamrock en était avec Goldust puis il frappait Road Dogg. Road Dogg était avec Val Venus pour frapper Goldust.
Des mini-alliances pour avancer plus tard dans le combat pour que ça leur donne un avantage.
Oui. Puis il y a eu beaucoup. Shamrock s'est fait éliminer en premier. Ouais. Après ça, c'était au tour. De Val Venus, et à la fin, c'était Road Dogg et Goldust avec un bon rythme de fin de match. Jusqu'à temps qu'il fasse le fameux spot, Goldust a demandé à Ryan Shamrock de faire trébucher Road Dogg. Puis évidemment, elle ne regardait pas ce qu'elle faisait. Puis Road Dogg a renversé Goldust. C'est lui qui s'est fait tripper par Ryan Shamrock. Et ça permet à Road Dogg de faire son. De reverser un power slam de Goldust en pin pour le compte de 3. Il gardait sa ceinture intercontinentale.
Là, vu qu'elle ne regardait pas ce qu'elle faisait, faut-tu que je refasse mon imitation de...
Si tu veux, ouais. Mais elle a juste fait ça comme ça.
Ah, comme
faut
ça,
ça comme ça.
Là, après ça, comme ça. Oh non.
Ouais, exactement.
Désolé Blue pour ceux qui ne regardent pas sur YouTube.
Et Blue Mini, il regarde puis il fait « T'as fait une erreur, t'es bien niaiseuse. » Puis après il dit à Golda, « T'as vu, je te l'avais dit que t'étais du trouble. »
Ouais, c'est vraiment le fun. C'est comme, comme
dynamique. Il y avait une bonne chimie ensemble.
Ouais.
Puis, non, c'est ça, un finish que Road Dogg aussi connaît très bien. Parce qu'il a fait le même finish avec Jeff Jarrett contre Shawn Michaels dans un Year House. C'était Road Dogg qui était en roadie dans ce temps-là. Puis Jarrett avait dit d'accrocher le pied de Shawn Michaels. Puis c'est roadie qui n'avait pas regardé ce qu'il faisait. Même spot.
On en a parlé déjà dans le podcast de ça.
Il avait parlé à celui-là qu'on avait fait avant qui n'a pas marché.
Ah oui, c'est vrai.
C'est un replay, celui-là. Et au début du podcast, on va savoir qu'on l'a déjà fait avant celui-là, mais qu'on n'a jamais vu le jour.
Là, il va le voir le jour.
Exactement. Ben oui, regarde.
Un peu comme ta fenêtre. C'est ça que j'allais dire. Oh, tabarouette.
Puis, non, c'est ça. Fait que un finish qu'il a déjà fait, comme j'ai dit. Puis, ça a souvent. Je pense que c'est l'idée de Road Dogg de faire ce finish-là. Si il a déjà fait le même finish avant, puis ça avait marché. Oh.
Probablement.
Ouais. Puis, c'est ça. Puis, évidemment, Mini et Golda sont pas contents. Puis, ils font la baboune à Ryan Shamrock. Puis, le lendemain, à Raw. Il y avait un match, en fond, la fin du match de ce soir a eu lieu dans un match single le lendemain à Raw. Et Goldust a battu Road Dogg pour un champion intercontinental.
Goldust?
Tu sais que Goldust va perdre pour longtemps après contre The Godfather.
Goldust, ça a toujours été, je trouve, dans ce temps-là, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de personnages. C'était à la mode. Ça devenait de moins en moins à la mode là, parce que plus tu avançais, plus que moins qu'il y en avait, mais. Goldust a été comme un personnage un peu avant-gardiste parce qu'il jouait l'homme qui se déguisait en femme. Puis, on dirait qu'aujourd'hui, ça serait comme. Aujourd'hui, ça ne serait pas accepté, mais en même temps, ça serait quelque chose qui devrait être accepté parce que c'est des choses qu'on accepte dans la société, puis c'est bien correct. Là. Mm-hmm. Mais avec un personnage comme ça, qui a réussi à faire tenir tellement longtemps. Il a duré quoi, 15 ans, Goldust?
Un méchant bout, oui.
Je parle juste Goldust, là. Évidemment, je ne parle pas de tous ces autres personnages.
Mmh, en effet.
Puis lui, ça, qui avait eu ce côté créatif-là, ou c'est Vince qui a sorti ça?
Je pense que c'est un peu des deux, je pense.
Oui?
C'est l'idée de Vince, mais Goldust avait beaucoup, beaucoup d'idées là-dessus. Okay. Même qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu savais le fun fact de ça. Non. À un moment donné, à l'époque, Goldust voulait se faire des implants mammaires.
Es-tu sérieux?
Oui, il voulait legit faire des implants mammaires pour son personnage. Des vrais, là, pas des fakes, là, des vrais, vrais.
Pour vraiment rentrer dans le personnage?
Exactement. Puis c'est Vince, il a dit non, pas nécessaire, il ne faut pas charrier non plus.
Non, c'est ça.
Chance de pas Vince Russo le buzz en ce temps-là, il aurait dû faire des double D.
Ça, c'est vraiment rentré dans le personnage. Hein?
Parlant de Goldust, c'est toujours été un worker solide dans le ring. Là. Même dans son temps de Goldust, il était excellent dans le ring. Là.
Même c'est encore aujourd'hui.
Oui, juste qu'il a apporté un élément théâtral, si on veut, à ce personnage-là qui a fait qu'il a marché. C'est comme, il y a beaucoup de monde qui parle d'Undertaker qui a pris un personnage de marde et le moldé de légendaire. Goldust n'est pas aussi légendaire, évidemment, mais il a pris quoi qui ne devait pas marcher tant que ça. Puis il a transformé dans une course qui a duré très, très longtemps et qui a été legit divertissant toutes ces années-là.
Ben, c'est ça, il a pris... En fait, son personnage n'était pas un personnage de marde, mais il a pris quelque chose qui était, mettons, pointé du doigt à l'époque un peu, même si...
C'est pas politiquement correct, mettons.
Non, c'est ça, exact. Puis même si on sait que dans les années 80, tu avais plein de... Tu sais, mettons, tu regardes les années un peu disco aussi. Ça, c'est, disco, c'est plus 70, je pense, par exemple.
Ouais,
70. Tu voyais souvent dans le studio, Studio 54, tu avais beaucoup d'hommes qui se déguisaient en femmes puis ces trucs-là, mais c'était quand même, comme tu dis, c'était pas accepté par la société. Mais, tu sais, mettons, côté personnage, j'aime mieux le personnage de Goldust qu'Undertaker, même si j'étais un gros fan des affaires de mort et tout ça. Mm-hmm. Mettons que ça fait plus de sens pour faire un personnage, là. Mais ah, ouais, je pense pas que Goldust ait eu tout le crédit qu'il méritait, en fait.
Non. Puis on voit la AEW encore en ce moment que c'est encore un gars bien, bien solide. Puis qu'il est encore plus en shape aujourd'hui qu'il était dans ce temps-là, en plus.
Ouais, il prend plus.
C'est à son honneur.
Ouais. Malheureusement, il va se battre contre QT Marshall. Puis ça...
Oh, c'est un upgrade. QT Marshall.
Ouais, c'est ça.
Puis après ça, on voit Big Show. Big Back 6 qui se fait arrêter par la police. Fait que ça le met out du running pour l'arbitre spécial du main event. Après ça, match numéro 6, Triple H, de DX Fame, affronte le Big Red Monster Kane. Puis évidemment, on a vu au Massacre Saint-Valentin, il y avait un match mixte en équipe, intergender si on veut, ouais. Avec China qui était avec Kane, qui a affronté X-Pac et Triple H. Puis un match qui était remporté par China après que Kane a fait un showtime à Triple H, puis a mis China dessus pour le compte de 3.
Mm-hmm.
Puis évidemment, après ça, les semaines qui ont suivi, on a vu. C'était Triple H qui était déguisé en Goldust.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Il a pris un lance-flamme pour mettre ça en face à Kane. Et nice, avant ça, il y avait aussi eu China aussi qui avait subi le même sort pendant que, dans le fond, China tenait Triple H. Puis Kane avait une boule de feu. Puis il a lancé d'en face à China quand Triple H a tassé.
Ouais.
Puis disons que, quand même, c'est pour une rivalité quand même assez dark, un peu, des lance-flammes d'en face, puis des... En même temps, c'est avec le personnage de Kane aussi. Là.
J'imagine déjà dans son salon, Luigi Pro en train de capoter, genre, avec les boules de feu, t'es comme, ah, ça, là, je vais faire ça chaque samedi soir à l'Arena ICW. C'est une méchante bonne idée.
Bref.
Je salue Luigi. Je te souhaite de reprendre ton café chez Tim Hortons bientôt. Parfait.
Kane arrive et se fait attaquer par le San Diego Chicken. Et après ça, on se rend compte que c'est Pete Rose avec
le
déguisement, oui. Puis pour rappeler, en fond, c'est sa deuxième apparition à Pete Rose. L'année d'avant, il a fait une introduction pour le match de Kane contre Undertaker.
Ouais.
Il a mangé un tombstone de Kane, quelque chose qui a parti une feud de 3 ans à Twitter WrestleMania.
Yes. Pour ceux qui ne connaissent pas Pete Rose, on en a déjà parlé avant, là, mais c'est un ancien joueur de baseball qui pariait sur les matchs, qui a été dans le fond,
de son équipe.
De son équipe. Pendant qu'il était coach. Fait que c'est pour ça qu'il n'a jamais été admis au Hall of Fame, là, même s'il y avait des excellentes stats.
Oui. Puis un des all-time greats, mais il a fait une affaire. Puis...
C'est ça. Fais attention. Quand tu es sous la loupe comme ça, il faut que tu ailles en ligne droite.
Ouais. Puis. Il était dans la fin éventuellement, mais pas celui du baseball, celui de la WWE en tant que Celebrity Wing.
Oui, c'est celui qui a vraiment beaucoup de prestance.
Il a quand même eu 3 spots dans WrestleMania. Là.
Ah non, c'est correct. Moi, j'ai rien contre.
C'est toujours mieux que Drew Carey qui a eu une apparition dans le Rumble, puis c'est tout.
N'importe qui peut être dans le Hall of Fame de la WWE presque.
Ouais. Puis c'est ça. Kane, il fait un tombstorm à Pete Rose et c'est la fin de M. Rose pour cette année. On le voit l'année prochaine.
À WrestleMania 2000?
En effet.
Ben, on n'en parlera pas parce qu'éventuellement, on va le faire. Fait que,
ah oui?
Ben oui, mais là.
D'accord.
Moi, que le podcast finisse demain matin, c'est sûr qu'on va faire WrestleMania 2000, tu sais.
OK.
Non?
OK. Ben, j'ai rien contre, on verra.
OK. Dans les 10 prochaines années, on va être là.
L'avenir nous va nous le dire.
C'est vrai, ça.
Puis, non, après ça, pour le match de Kane contre Triple H, en fond, c'était quand même un bon match, quand même. Disons qu'en plus, Kane, dans ce temps-là, il a toujours été athlétique, on s'entend.
Mm-hmm.
Il faisait des dives à l'extérieur du ring, il faisait son gros clourant de la troisième corde, avec beaucoup d'élévation, il était écœurant.
C'était pas toujours chic parce que c'était un monstre, là. Ouais. Fait que des fois, c'était moins tight, si on veut, mais au moins, il essayait, puis c'était divertissant, puis je vais leur dire encore, je l'ai dit au dernier pay-per-view, j'adorais les pantalons de Triple H comme ça. Surtout en argent, couleur argent. D'ailleurs, China est aussi couleur argent. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne crois pas.
Fait que c'est ça, il y a quand même eu un match back and forth entre les deux.
Mm-hmm.
Avec Triple H qui va être un Heine à Hardy Race à Kane. Puis ça, c'est à ce moment-là que China est arrivé de ses blessures, de la fireball d'en face. Puis il était venu pour faire diversion. Kane a tenté un tombstone que Triple H a counteré en pedigree. Mais Kane l'a fait tomber sur lui-même pour lui faire un elbow drop tout de suite après. Après ça, il y a China qui est monté dans le ring avec les steps elle les a mis dans le ring pour que Kane les utilise contre Triple H. Mm-hmm. Ce qu'il a fait en la chargeant Triple H avec les steps, puis Triple H a juste fait un drop to hold qui est tombé très dans la face de Kane, un beau spot.
Ouais.
Puis Kane a essayé de faire il y a eu un tandis de pedigree sur les steps qui a fait un backdrop pour s'en sortir. Un choke slam de Kane à Triple H. C'est là que China est monté avec une chaise dans le ring pour dire à Kane de lever Triple H, dire que moi je vais le frapper, tiens-les. Puis quand il s'est retourné, ben, il l'a frappé dans le dos.
Oh, la Judas.
La Judas.
On ne s'attendait pas à ça, pas en tout de la part de Triple H et China.
Ouais. Puis là, Triple H en profite pour donner un coup de chaise dans le dos à Kane et dans sa tête aussi.
Mm-hmm.
Puis il a fini avec un pedigree pour le compte de 3. Fait que maintenant, China et Triple H sont réunis en tant que Conquering Baby Faces.
Avec la célébration avec Triple H, le bras des airs.
Ouais, puis tiens China de même dans, son, ouais. dans ses bras. Là. C'est genre l'Elisabeth et Macho Man des temps modernes, mais pas pareil.
Ouais.
Fait que c'est ça. Puis juste à noter aussi que Kane a fait un beau bump sur le pedigree.
Ouais, avec le genou.
Bumper un genou, ouais.
Ouais, il n'est pas ça. Capable de bumper sur le ventre, Kane.
Je trouve ça bien drôle.
Ah ouais.
Fait que DX est à nouveau réuni, les chanceux. Après ça, on a Kevin Kelly backstage. Avant de parler avec Kevin Kelly qui va nous parler backstage de quelque chose, le match est excellent. J'ai bien aimé ce match-là.
Ouais, mais il y avait une backstory aussi. Fait que ça amenait de l'émotion.
Ouais.
C'est ça. C'était souvent ça que Triple H aussi. Là, c'est bien. Peu, peu, pas, il était tout le temps dans une grosse histoire importante. Fait que ça donne de l'importance au match. Là.
Moi, je trouve que c'est dans ce sens-là, il était à son apogée côté in-ring et ouais. Storyline. Tu sais, je sais que plus tard, il a gagné plus de championnats, puis évidemment, toute la patente qu'on sait déjà. Mais je pense que Triple
côté
H.
Match, ouais.
Ouais, Triple H, après que Shawn Michaels soit parti avec sa blessure au dos, là, entre ça et son heel turn, justement, pas longtemps après ça, clin d'œil, je trouvais excellent dans le ring, puis Babyface Triple H en DX, je l'aime bien.
Oui, je pense que je suis d'accord avec. Maintenant, quand je me remets à regarder l'histoire de Triple H, qui était mon préféré de. J'ai jamais pensé que c'était le meilleur lutteur, là.
Non.
Ça a toujours été un gars qui est venu me chercher dans tout ce qu'il a fait. Moi, pour moi, le meilleur de tous les temps, c'est Stone Cold. On va en reparler, mais pour moi, c'est Stone Cold. Là. C'est le gars qui m'a fait le plus vivre d'émotions, si on veut. Puis je trouvais ses matchs tout le temps excellents. Mais Triple H, non, c'est ça. Je pense que ouais, la période DX, dans ce temps-là, je pense que niveau combat, c'était ses meilleurs.
Mm-hmm.
Mais la période que je l'ai plus aimé, mettons, en tant que personnage, je pense que c'est Evolution.
OK.
Parce que c'était la façon le gars qui veut garder sa ceinture, mais qui a besoin de tout le monde pour l'aider. Par contre, je ne peux pas passer sous la loupe DX. Tous les moments, de peu importe avec quel DX, ça a toujours été excellent.
Bref, c'est ça. Bon match. Puis, pas le match de la soirée by any means, là, mais c'était très bon.
Ouais, c'était dans le top 3 de la soirée, je pense.
Oui.
Top 3, oui.
Ouais. Ouais, moi, c'est mon troisième meilleur match de la soirée, je trouve.
Ouais, d'accord.
Fait que ça, pour venir à Kevin Kelly qui est backstage, il annonce que Mankind est à l'hôpital et qu'il ne sera pas l'arbitre spécial du match entre Rock et Austin dans le main event. Et c'est là que M. McMahon l'interrompt. Puis il dit que dans son sac, son gym bag, il y a un chalet d'arbitre qu'il va utiliser ce soir. Because I'm gonna be the special referee. No more controversy.
Ben ouais, c'est ça.
Oui, hein.
C'est là qu'il va en avoir le plus, dans le fond.
Ouais, c'est sarcastique. Là.
Ouais, je sais.
Match numéro 7 pour le championnat féminin. Sable affronte Tori.
Tori
Wilson, on parle de Tori. Tori
qui était avec X-Pac.
Exactement, à Pekin avant ça.
Puis Tori qui avait elle a abordé son outfit de Giant Gonzalez.
Oui, oui. je trouve que ça y valait beaucoup mieux à elle qu'à lui.
Pas d'accord.
Ben ouais, non.
J'ai même mis les fesses de Giant Gonzalez.
Chacun ses goûts.
Oui.
Dans le fond, la story, dans le fond, dans le sens, c'était que Tori était une grande admiratrice de Sable, dans le fond, une stalker, si on veut.
Un peu comme Mickey James et Trish.
Ouais. Puis, pas mal moins hardcore. Là.
Ouais.
Mais, c'est bizarre, hein? Que d'habitude, ça aurait plus été ça qui était hardcore, puis l'autre plus tard qui était plus moins sérieux, si on veut, mais c'est le contraire.
Comment, qu'est-ce que tu veux dire?
Dans le sens que Mickey James contre Trish, c'était vraiment genre une storyline qu'on aurait pu voir dans ce temps-là. Tandis que la storyline de ce temps-là, on aurait pu la voir plus tard, dans le sens que.
Ouais, je comprends.
Un peu plus PG, si on veut, là.
Mais la différence entre Mickey James et Trish, c'est que c'est des bonnes lutteuses.
Ben oui. C'est,
c'est juste, la grosse différence.
Juste Mickey James tout seul, elle torche les deux avec une main dans le dos.
Mais j'ai jamais compris pourquoi t'as trippé. Tu trippais autant sur Mickey James. Ça, mais t'es pas si wow que ça.
Ben, c'est question de goût, j'imagine.
Ouais, parce que tu m'en as parlé souvent là, de Mickey James.
Ben,
pour plusieurs raisons, là. Je sais que t'as un petit côté country à la Taylor Swift quand elle a commencé.
Hardcore country!
Ouais, c'est ça.
C'est Taylor Swift. Je connais pas ça.
Oui. Taylor Swift, dans le temps qu'elle faisait du country, là, tu me cassais les oreilles avec ça. Là.
Ben oui, Taylor Swift.
Mais toujours en peine d'amour. Ça me prendrait un gars comme Frick qui te matche avec Taylor Swift.
Ben, parfait. S'il y en a qui la connaissent, écrivez ça sur Facebook, YouTube, on va s'arranger, on se rencontre puis on déjeune.
C'est le seul gars qui briserait pas le cœur à Taylor.
C'est vrai. Pas moins d'argent qu'est-ce qu'elle aimerait, par exemple.
Ouais, mais c'est pas tout l'argent, là.
C'est vrai.
Elle a de l'argent, puis elle n'est pas heureuse.
Ouais. C'est vrai. Fait que c'est ça. Puis, Sable, à fond, Sable voulait rien savoir d'elle. Fait que là, puis Sable était dans les. Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Je viens de me rappeler un move dans le match, le crossbody de Sable en bas du ring.
Ouais, c'est vrai. Puis, non, mais ça. Puis, Sable venait juste apparaître dans Playboy. La version qui a été le plus vendue en 15 ans. Pour la compagnie de M. Hugh Hefner.
Mm-hmm. Et là, je vois ton petit sourire qui est comme « Ah, c'était le bon temps, hein? »
Ben,
c'est beau. Hey, tu t'es réparé bien raide aujourd'hui avec Playboy avec toutes les divas?
Ça a ouvert la porte à beaucoup de filles, ça, pour faire de la palette.
Ben,
c'est... oui, il y en a des méchants trollés qui l'ont fait. Là.
Le sexe avant, hein?
Sex sells, ben oui.
Et voilà.
Puis c'est beau de prendre le micro avant le combat. Elle nous dit, elle nous demande si on est prêt pour le grind. Fait qu'elle se met à danser comme une catin.
Oh mon Dieu, j'ai l'impression de revivre un moment qu'on a déjà fait, mais ça peut encore plus rire que la première fois.
Puis en plus, à noter dans le match que Tori, ça faisait 10 ans qu'elle luttait.
Ah oui? Professionnellement.
Ça n'a pas paru pendant tout, hein? C'est pas juste Sable.
Où c'est qu'elle a pris ses cours?
C'est beau.
On salue Luigi.
Silence d'un coup. Anyway.
OK, parfait.
Fait que ça, puis match dégueulasse. C'est beau faire des yes kicks comme année super cheap à Tori. Puis comme tu as dit tantôt, évidemment, le crossbody de l'apron, tout un spot. Assez... Après ça, en plein milieu, elle se met à danser.
Oui. T'es digne d'une danseuse de chez Paris.
Ouais. Puis, c'est bon, elle rate des kicks, mais Tori essaye de Il va faire une close line avec Sable Duck, puis Tori pogne l'arbitre pour un ref bump.
Oui.
Et après ça,
d'ailleurs, Tori... d'ailleurs, c'est le ref qui a le plus beau bump du match.
Oui, en effet. Pas dur, hein?
Non.
Tori, après ça, place Sable en position de powerbomb. Mais Nicole Bass du Howard Stern Radio Show.
Hey, c'est pas Nicole Back, là.
Non, non, Nicole Bass, B-A-S-S.
Je ne m'en souviens pas de la première enregistrement, mais je suis sûr que j'avais fait cette blague-là.
Ça se peut.
Sûrement.
Et elle, en fond, elle pogne, elle l'agrippe, elle fait un press slam à Tori. Et ouais. Sable, Sable fait un Sable bomb pendant que l'arbitre se réveille, un compte de trois, et Sable garde sa ceinture.
Toute une pièce d'homme, ce Nicole Bass. C'est Nicole Bass.
c'est ça. match de marde. Disons qu'on va vous spoiler quelque chose. Le pire match de la soirée, ouais. C'est celle-là.
Ouais. Mais tu sais, ceux qui se demandaient pourquoi que la division féminine n'était souvent pas prise au sérieux à l'époque, là, à regarder ce match-là. C'est vraiment un match basé sur... en fait, je ne sais pas sur quoi ce match-là est basé vraiment, mais c'est ça. Sex sales, puis rien d'autre.
Donnez une idée comment que la ceinture était bien cotée dans ce temps-là. Sable l'a perdu contre Deborah dans un evening gown match. Parce que Sable a montré moins de peau que Deborah.
Fait que
sûrement à cause qu'il était le commissaire à l'époque, a donné la ceinture à Deborah.
C'était ça le match?
Ouais. Pas longtemps après ça, Sable n'était plus là. Puis après ça, elle a poursuivi la compagnie pour une poursuite d'agression sexuelle.
C'est vrai?
Ben, pas agression sexuelle, mais genre harassment. Là.
À cause qu'elle n'a pas eu le choix de faire cette.
Ben, à cause de belle affaire, je ne me rappelle pas, je sais pas le cas par cœur que c'était, mais elle avait fait une plainte, une poursuite pour genre au moins beaucoup, beaucoup d'argent.
C'est drôle que tu parles de ça. Récemment, Lita l'avait dit sur sa chaîne Twitch que le fameux segment avec Edge dans le lit, là, le Sex Life Celebration.
Ouais, qu'elle ne voulait pas le faire.
Qu'elle voulait pas le faire, puis que même Cena puis Edge avaient fait, ben, OK, c'est correct, ça veut pas le faire, on le fait pas. Puis Vince j'ai fait, non, tu vas le faire, sinon tu perds ta job.
Mm-hmm.
Fait que
organisation.
Je savais pas, là, pour l'affaire du match, celui qui monte plus de peau gagne, c'est dégueulasse, ça, là.
Ouais, ben, c'était genre, c'est pas si c'était un evening match ou un bikini contest, c'est une affaire de même.
Ouais.
Puis, c'était un evening gown match que Sable avait gagné. Mm. Puis, évidemment, elle avait strippé Deborah. Mm-hmm. Puis Sean McGraw, vu qu'il était commissaire face, il a dit, ben là, d'habitude, c'est celle qui enlève le linge qui gagne, mais c'est celle qui n'a pas de linge qui gagne cette fois-là. C'est une façon d'enlever la belt à Sable avant de la mettre dehors.
Ouais. En tout cas, c'est une autre époque, mais si c'était aujourd'hui, la génération Z cancellerait Vince McMahon.
Oui. Comme M. Patate et Pépé Le Pew.
Oui, Pépé Le Pew, rip. Puis il y a aussi la Bonnie, là, la sexy Bonnie qui n'est plus là.
Oui, t'es avec le Butcher and the Blade en ce moment.
Ouais, fait que vous pouvez encore jouer à GTA puis arracher des têtes pour les enfants puis acheter une pute sur le bord d'une rue, mais vous ne pouvez plus regarder Pépé Le Pew.
Ouais. Il n'y en a plus.
Ouais, c'est ça.
Après ça, on a backstage, une entrevue avec DX au grand complet, avec Triple H qui dit qu'ils sont enfin réunis ensemble, qu'ils sont plus forts que jamais. Puis il dit qu'Expect va botter le cul de Shane, il va botter son corporate ass. Puis Expect dit que Shane. Get ready for some pain.
Yeah.
Fait que match numéro 8 pour le championnat européen. X-Pac affronte Shane McMahon accompagné de test.
Et là, je ne l'ai pas fait au dernier podcast. Je me suis préparé, OK?
Okay.
Aux abords du ring, dans la foule, il y avait les amis de Shane, les Mean Street Posse. Fait que je veux vraiment que vous appréciez le moment. Puis que là, je veux pas que tu parles, OK, TJ?
OK.
Pas que tu parles, fait qu'appréciez ce moment-là puis cette magnifique chanson. Y aller.
C'est pas assez long, ça?
Ouais, ça continue, gars. C'est encore là. C'est...
Et cool. Tu vas couper à cette heure, je vais parler, c'est correct?
Ok, vas-y.
Ou laisse la pour le match au complet.
Ok, parfait.
All right, nice. Fait que c'est ça. Ils sont à l'extérieur du ring. Il y a évidemment ceux qu'on connaît. Puis Ronnie, puis Gas. Mais, un gros mais. Il y en a d'autres. Mais oui, trois autres membres qu'on a vus, genre une fois ou deux, max, statique. Et j'ai leur nom.
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se cache Anguille sous roche là-dessus. Non?
Non.
Il n'y a pas des lutteurs qui ont été connus plus tard, non? Je pensais que...
Il y a Joey Hall, mais il est plus tard, il n'est pas là en ce moment.
Joey Hall? Il y avait de quoi après?
Mais Joey Abs, c'est un vrai lutteur, tandis que les autres n'étaient pas lutteurs.
Ah, ok. Ouais. Ouais.
Puis il était plus long. Dans le fond, c'est le trio qu'on connaît, c'est Pete Cash, Ronnie et Joey Abs.
Ouais.
Joey Abs, c'est le worker du groupe pour qu'évidemment, il fasse des matchs de lutte qui aient un peu de sens aussi. Mm-hmm. Puis non, les autres membres, c'est Billy P, Eddie Jackie et Willie Green. Du beau monde qu'on verra presque plus jamais après ça.
On parlait pas à un moment donné, il y a pas longtemps avec Alfredo, les noms de marge en T-Bar pis toutes ces affaires-là.
Ouais, mais ça au moins c'est des noms normales. Billy P, ça peut être Billy n'importe quoi. Willie Jackie, Willie Green pis Eddie Jackie, au moins c'est des noms. Là. J'aime pas, moi, je vais te brancher. Si Slapjack s'appellerait Eddie Jackie, il serait plus over.
T'es malade.
T-Bar, c'est Billy P. Et Willie Green, c'est Ace. Fait que ce match numéro 8, comme j'ai dit tantôt, pour le championnat européen.
Ouais.
Puis pendant l'entrée d'X-Pac, il se fait jumper par Patterson et Briscoe. Puis évidemment, ça n'a pas le succès escompté parce qu'X-Pac se débarrasse des deux. C'est Go vers Shane! Et le match commence, en fond, vu qu'il teste est avec Shane McMahon, fait que ça ouvre la porte à beaucoup d'interférences de test, évidemment, et des méchus de passé qui sont dans la foule.
Ouais.
X-Pac qui se tape va juste frapper tous les gars de la passer un après l'autre. Et moi, après ça, il y a un faux finish. À un moment donné, c'est X-Pac qui fait le Bronco Buster à Shane. Pendant que l'arbitre a le dos tourné, ben, Tess arrive avec un big boot. Puis Shane a couvert X-Pac pour le compte de deux parce que c'est un false finish qu'ils ont fait.
Ouais.
Puis dans le dos du ref, à un moment donné, Tess a pris X-Pac puis a ramassé Écosse dans le poteau.
Pote que tu faisais.
Je sais, à deux fois tu dis ça, puis je comprends pas, j'ai jamais fait ça.
À l'époque, on luttait dans la même fédération que je luttais avec toi. Je faisais souvent rentrer des gosses dans le poteau parce que tu étais un grand fan d'X-Pac. À noter que tu avais aussi un masque d'X-Pac.
Oui, oui.
Des choses très douteuses. Il y a des affaires qui vont rester backstage qu'on verra jamais. Heureusement, dans ce temps-là, l'Internet était moins fort et les téléphones cellulaires, on n'avait pas vraiment pour prendre des photos.
Faudrait que je demande à mes chums de la CWC s'ils n'ont pas un masque de même dans leur stock.
C'est sûr qu'ils en ont un.
Ça serait malade. Je le porterais live au podcast.
Ouais, tu serais plus beau.
Mais franchement.
Ouais.
Fait que c'est ça. Une strap qui arrive en ligne de compte et c'est X-Pac qui l'utilise pour whipper Shane McMahon, quelque chose qui n'est pas arrivé souvent dans sa jeunesse. Ben, il était jamais là, Vince.
Ouais, c'est vrai.
Après ça, Mané, il y a un spot où X-Pac essaie le Bronco Buster. C'est Shane essaie le Bronco Buster à X-Pac, puis il met son pied.
Ça,
un counter qui. Ouais, un counter qu'il connaît aussi parce qu'il s'est fait faire souvent. Puis Mané, il y a Triple H qui arrive pour niveler les chances d'X-Pac. Il s'occupe de test. Puis Mané, Triple H, il arrive à un Bronco Buster. Dans le fond, X-Pac fait un kick à Shane, puis il fait le Bronco Buster pour le setup pour le finish. À fond, ce qui arrive, c'est Triple H embarque dans le ring, puis il fait un pédigré à X-Pac, le traître. Ça permet à Shane de gagner le combat, regarder la ceinture européenne. Fait que le gros turn, X-Pac et China sont maintenant dans leur corporation. Ouais. Un swerve, après ça, un face turn, un heel turn, un autre heel turn pour China, qui a fait trois turns dans la même soirée.
Ouais.
Et puis, on a Vince Russo.
On peut plus passer en aller avec Big Show.
C'est vrai. Ça n'a pas été là assez longtemps, malheureusement. Puis après ça, il y a Test Triple H qui s'attaque à X-Pac 2 contre 1.
Mm-hmm.
Après ça, il y a un run-in de Road Dogg et Billy Gunn. Billy Gunn, évidemment, qui slide le ring au grand complet. Yeah. Il est quasiment sorti de l'autre bord, quasiment, qu'il slide. Right. Puis c'est ça. Les heels se sauvent. Puis Billy Gunn, Road Dogg, X-Pac regardent Triple H, China et Test partir, qui ont perdu leur groupe, leur leader, leur mentor.
Oui, ils sont vraiment laissés à eux-mêmes. Et... C'est ça. Ça n'a pas été tout joyeux, tout beau après.
Ouais. Puis les lumières sont fermées aussi par après. Puis c'était Kane.
Ouais, je pensais qu'il y avait d'électricité.
Ouais, il a voulu prendre sa revanche sur Test et surtout Triple H. Puis ils ont brawlé jusqu'en arrière.
Fait que ça a amené tranquillement à Kane et X-Pac ensemble.
Oui, en effet, oui. On est My name is Kane.
Et le fameux saut de verre qu'on avait déjà montré à l'écran.
Ouais. Puis non, mais ça, c'est dégueulasse, là. Mais j'aimais bien cette équipe-là dans le temps où X-Pac.
Ouais, ben,
ça faisait genre le gars qui veut montrer au monstre comment vivre, mettons. Là.
Ouais, ben ça a permis de voir le charisme de Kane un peu. Là.
Puis éventuellement, X-Pac s'est tourné contre lui. Puis il était avec Tori. Il a volé la Tori de Kane qui était à l'époque sa copine.
Ouais, ben, X-Pac a toujours eu un petit faible pour les femmes différentes. T'sais, Giant Gonzalez, China.
C'est vrai, tu ne me l'as pas rappelé tantôt après la fin de Ryan
Ah,
Shamrock.
j'ai oublié, ben oui, j'ai oublié de te rappeler, Ryan Shamrock, excuse.
Bon, ben c'est là. En fait, ce qui
Vas-y.
est arrivé, c'est que pas longtemps après ça, il est parti de la WWF. Parce qu'à un moment donné, il y avait un angle que Vince McMahon voulait qu'elle fasse. Vince, je ne sais pas si c'est Vince McMahon ou Vince Russo, un des deux. Mais il voulait qu'il fasse une storyline d'inceste
Oui, c'est vrai.
avec Ken Shamrock. Ça.
Mais t'en
Puis,
avais déjà parlé, ça. Tu l'as
il n'y
parlé
a pas juste
où?
ça, j'ai dû faire quelque chose d'autre. Un autre twist, une affaire que Ryan Shamrock a dit dans une entrevue plus tard par après,
Ouais.
c'est qu'il voulait que la mère de Ryan Shamrock, ce soit Deborah.
OK.
C'était pour être l'enfant Shamrock qui était pour coucher avec sa fille. Mais dans le fond, la mère de Shamrock, la mère de Ryan, c'était Deborah qui avait couché avec Shamrock dans le temps. Puis elle avait dit non. C'est pour ça qu'elle est partie. Alors, ben, pas tout de suite après, là, mais genre peut-être 2, 3 mois après, mettons.
OK. Wow.
Fait que c'est ça.
Sacré Vince, hein?
Ouais. Un peu dark, hein?
Ouais, c'est un petit peu trop bizarre, mon goût.
Ben, ça aurait fité dans l'attitude d'Era.
Ouais. Ben, Debra, c'est vrai qu'elle avait l'air d'une mère à cette époque-là de 74 ans, mais même si elle en a juste 61 aujourd'hui. J'exagère un peu. C'est chiant. M'excuse.
Une belle femme pour son âge.
Oui, ben oui, absolument. Pas de mon goût, mais belle femme. Elle a déjà été mariée à Stone Cold aussi.
Oui, mais
Stone Cold, Mark Merrill, tu sais, non?
non,
Non, c'est
avec
Stable, ça, je me suis trompé de
oui,
nom.
avec Mongo McMichael.
Ah oui, c'est vrai.
Puis non, puis disons que ça va bien finir, elle puis Austin.
Non. Ouais.
On va regarder une petite jambe, on en parlera pas.
Oh, hell yeah!
Ou plus OLO dans ce cas-là.
Ouais, c'est ça.
Un enfant de cœur, Steve.
Non.
Mais c'est ça. Puis pour revenir au match X-Pac contre Shane, ça
Ouais.
c'était wow. Pour un gars
Ouais.
qui lutte pas beaucoup, Shane McMahon, mais tu sais, même encore
À
aujourd'hui,
l'époque,
après des
ouais.
matchs, là, on sait comme quoi qu'il va tout se donner, puis il n'a pas peur de
Ouais,
rien. Là.
ouais. Ouais.
Mais disons, X-Pac, puis je vais me répéter encore, je l'ai dit au dernier podcast qu'on a eu avec X-Pac dedans, mais c'est un
Ouais.
des meilleurs gars dans le business pour faire un match de A à Z. Fait que Shane était dans des bonnes mains pour commencer, mais les deux ont tenu leur côté de l'équation.
Ouais,
C'était un excellent match.
tu te répètes souvent, je trouve.
Ben, c'est parce que c'est le fun. C'est des affaires qu'il faut répéter. Hein.
Mais oui, je sais, je te niaise.
C'est ça.
C'est parfait.
Après ça, l'affaire qu'il ne faut pas répéter. Match numéro 9. Hell in a Cell. Avec Big Boss Man qui a affronté The Undertaker. Attends,
Mettons
la controversie pour
que
dessus, évidemment.
quand tu passes après ce match-là, t'as pas peur, hein?
Ouais. Puis, disons, l'historique, on la connaît pas mal. Bon, c'est Bossman qui était le hired gun de M. McMahon, qui, Undertaker, il n'arrêtait pas de harceler Vince McMahon avec, il avait brûlé le teddy bear de Stephanie McMahon.
Nice.
Il avait mis Vince à genoux et qui pleurait.
C'est cool.
Puis, ouais, c'est ça. Puis, même cette année, il y avait une entrevue avec Shane, avec Stephanie puis Vince. Puis, Stephanie, dans le temps, qui était genre la petite fille qu'on connaissait pas, là. Il était cute. Puis, évidemment, ils ont fini par la kidnapper, puis on sait ce qui est arrivé.
That Jezebel.
Ouais. Fait que c'est ça. Puis, regarde, le match, c'est dégueulasse, là. C'est punch kick. À un moment donné, il y a un spot que Taker, il se fait menotter à Hell in a Cell, puis Bossman donne un coup de nightstick, puis les menottes pètent, là, puis
Ouais.
elle donne un kick.
C'était assez limité comme match. Pourtant, les deux gars sont. Ils étaient bons.
Ils peuvent être bons quand c'est. Quand
Ouais.
c'est vrai, quand c'est. En tout
Mais le look de Taker, je trouve que c'est le look qui faisait le plus peur, moi.
ben, il était vraiment look ill.
Ouais, vraiment, vraiment. Un de ses plus beaux looks, je pense qu'on n'en parle pas souvent, parce que la Ministry of Darkness a été. Je pense que ça aurait pu être mieux fait que ça. Mais, tu sais, il y avait quand même beaucoup de talent dans ce roster-là, dans le fond. T'avais Edge, Christian, t'avais Gangrel, t'avais Million, Viscera. C'est pas.
Les derniers, c'est discutable.
Ouais, mais pour un bodyguard, genre, c'est.
Il y a Bradshaw Farouk aussi.
Ouais, c'est vrai. Ça, c'était. Ouais, parce que c'était. J'aimais bien ça, j'aimais bien son look. Je trouvais que un des looks qui faisait le plus peur, même en ayant un look morbide toute sa carrière, je trouve celui-là. Il est sorti.
J'aimais bien le nice touch, la grosse barbe, là.
Ouais.
Les sideburns, c'était malade.
Moi, j'ai une question pour la fin du match. Comment ils ont fait pour.
Ben attends, mais je suis pas
Ah,
rendu.
vas-y, vas-y. Ok, parfait, excuse.
En fond, il y a beaucoup de chance boring dans le match de la foule, évidemment. Puis, comme on sait, on se doute du résultat, hein, si vous suivez un peu l'Undertaker. Puis il a gagné avec un tombstone, puis that's it, that's all. Mais, où est-ce que tu vas en venir? Après le match, la Brood, Edge, Gangrel et Christian sont venus mettre un coulant.
Oui.
Pour pendre le Big Boss Man.
Oh yeah, un de mes moments préférés. Mais oui, pourquoi?
Morbidement. Puis ça, puis il avait pendu, puis la selle montait. Puis il y avait, en fond, la Brood était sur le top de la selle en même temps.
Oui.
Puis dans le fond, c'est quoi, ta question, c'était comment qu'il a fait pour faire ce spot-là?
Oui, je sais que c'est des harnais qui le tenaient, mais...
Donc, il y avait un harnais qui tenait sa veste anti-balle que Bossman porte toujours. Là.
C'était invisible ou ils l'ont attaché avant?
Ben, non, c'était visible dans l'affaire qu'ils ont faite.
Oui, c'était visible, oui.
C'était visible. C'est sûr qu'il était pendu quand même, mais c'était
ouais.
Ça qui le retenait plus que ça.
Oui, c'est bien, j'espère.
Non, c'est bien. Il est arrivé le lendemain, il était correct. Que...
Oui, ça, c'est un peu bizarre. Hein.
Ouais.
C'est quand même dangereux aussi, même avec Edge and Christian sur le top de la cage.
Mais c'est drôle que tu en parles, parce qu'il y a un fun fact aussi là-dedans. C'est que Edge était pogné maintenant en haut. Ouais. Son harnais montait pas. Puis même qu'entre ça puis le match d'après, il était resté suspendu pendant un gros 5 minutes avant que le monde vienne l'aider. Mais tu sais, il y avait la selle en dessous de lui, fait que c'était correct.
Mm-hmm.
Fait que, t'sais, il n'était pas en danger de mourir ou tomber. Il aurait tombé sur la selle. Ouais.
Mais ça, c'est donc, en 1999 en plus, la même année qu'Owen est mort.
Ouais. Mais tu sais, au moins, il est resté suspendu avec. Là. Il n'est pas tombé, je sais,
mais quand même. Là.
Si ça s'en fallait arriver avec Owen Hart, c'était différent. En tout cas.
C'est pour ça aussi que quand je vois des trucs à AEW qui refont ça, je sais que c'est pas la même compagnie, puis que c'est. Mais ça me fait toujours peur puis de mettre la vie du monde en danger un peu. Là.
Mm-hmm. Non,
probablement que les autres ils le font avant, mais tu sais, on sait jamais. Hein? Même d'un truc de cirque, il y a toujours des pratiques, mais tu n'es jamais sûr à 100% de ce qui va arriver. Mm.
Puis pour venir au match, ben. C'est dégueulasse aussi, là. C'est pas.
Ouais, vraiment dégueulasse.
J'ai vu pire, c'est sûr. Quoique, tantôt, je parlais de Tori contre Sable comme pire match. Tu sais, au moins, eux autres, ils ont l'excuse que c'est pas les filles les plus. Surtout Sable, c'est pas la fille qui a lutté le plus longtemps dans sa vie. Là.
Ouais, c'est vrai, hein.
Mais je sais pas que les deux, je mettrais comme. On va y penser pour la fin du podcast, là, mais okay, le show va être dur.
Yes.
Fait que c'est ça. Fait que Big Boss Man pendu.
Ouais.
Après ça. On a Michael Cole qui introduit Jim Ross pour commenter le main event de la soirée.
Avec la chanson.
Oui. Ouais,
mais là, c'est parce que tantôt, tu m'as dit, mets la toune pendant le review, mais le review a duré 7 minutes. Fait que je pense que la toune a fini avant. Je m'excuse pour
les gens
qui avaient trop de fun.
On va te le pardonner pour cette fois-ci.
Parfait. Merci beaucoup.
Fait que ce match numéro 9. Pour le championnat de WWF, Stone Cold Steve Austin affronte le champion The Rock.
The Rock.
No disqualification en plus.
Ben voyons donc.
Évidemment. Après ça, il y a Vince McMahon qui arrive, mais pas de chandail d'arbitre. Mais le commissaire Stone Cold fait son entrée. Il informe M. McMahon que c'est pas lui qui décide l'arbitre spécial et c'est lui, Stone Cold, le commissaire, qui va s'en occuper.
Stone Cold m'énervant, commissaire. Ouais. Je l'aimais pas.
Puis il a mis Mike Kyoda, ton chum Kiki.
Kiki, ben oui, comment tu vois Kiki?
Ben, je sais pas, fait un bout qu'on l'a pas vu.
Ben oui, Chris.
Il va revenir. Okay.
M'excuse.
Puis non, c'est ça. Puis il dit que c'est lui qui va être qui est l'arbitre spécial, Mike Kyoda. Enfin, pas vraiment spécial, mais c'est lui qui va le refaire le combat. Ouais. Puis il dit aussi que la corporation est barrée du ringside aussi. Hey, hein, c'est-tu plate pour The Rock, ça?
Ouais.
Puis, fait que c'est ça, mais match évidemment très intéressant les deux lutteurs.
Du gros brawling.
Ouais, du brawling dans la foule. Et beaucoup, beaucoup de spots à la fin où c'est juste des finishes. Rock fait le stunner. Austin fait le rock bottom.
Et je retiens aussi le backdrop, sa lumière, où que Austin s'est pété le genou. Là.
Ouais, c'est vrai. Un petit backdrop sur la boule de métal. Là.
Ouais, ça a pas fait du bien. Même à l'époque, j'avais remarqué, puis j'ai fait comme, je suis sûr que c'est fait mal pour vrai. Là. Je sais pas j'avais quel âge à cette époque-là, mais
c'est ça. Ouais, t'as quel âge, là?
Ouais. On peut pas... Tu ne demandes pas ça à un homme? Non, j'ai 34. J'ai 34.
C'est une femme que tu ne demandes pas ça.
C'est vrai. 34. Fait que...
Ça fait combien 21 ans. Ça fait 21 ans de ça.
Bon, parfait.
Parfait.
J'avais
13 ans. Oui, fait qu'éventuellement, ben, Mike Yoda mange un ref bump. Puis, évidemment, Austin a profité de faire un stunner à The Rock. Puis, Runner arrive en courant pour le compte de 1, 2 et 2 non. seulement en kick-out ouais. de The Rock. Après ça, il y a un people's elbow que The Rock a réussi pour un autre compte de 2. Mm-hmm. Puis, à la fin du match, dans le fond, ce qui arrive, c'est que Austin, il bloque... Non, The Rock a bloqué le coupé d'Austin pour le stunner. Qui a retourné Austin de bord, qui a essayé, il s'est fait un rock bottom, mais Austin a renversé avec un coup de coude sur le bord de la tête pour ensuite y faire un stunner avec le fameux bump de The Rock, ce qui fait juste ouais. un backflip par en arrière.
Mm-hmm.
Et l'arbitre qui était supposé être là, Mankind est revenu. C'est lui qui a compté le compte de 3 pour permettre à Austin de gagner le championnat de WWF contre The Rock.
Avec la face de Vince en bas du ring.
Ouais, ouais, qui était en crise, là, qui était sur le bord des larmes ou presque. Ouais. Vince avait essayé de venir faire. Il a fait l'intervention un petit peu avant ça, mais ça n'a pas marché malheureusement pour lui.
Non.
Fait que c'est ça, le premier de leurs trois matchs à WrestleMania entre The Rock et Austin. Et à mon avis, je pense que c'est le plus faible des trois, je pense.
Oui, je suis d'accord.
Le deuxième était vraiment excellent.
Moi, je pense que le plus faible, c'est WrestleMania 19, à cause aussi, entre autres, des conditions d'Austin.
Ouais, mais je trouve que l'histoire était meilleure vu que c'est le dernier match d'Austin, puis que The Rock ouais. l'avait jamais battu, puis une affaire de
même. Ouais, ok, ouais, je comprends.
Le côté du reste du combat,
ouais, peut-être,
le in-ring
ouais.
action.
Ouais, si tu mets ça peut-être plus all-around, ouais, c'est ça. Ouais. Mais t'es-tu d'accord pour dire que même si Austin avait gagné la ceinture contre Michaels l'année d'avant, que non, Austin avait gagné la ceinture contre Michaels l'année d'avant, non? Armenia?
Oui, oui, oui.
Ok, parfait. Que ce WrestleMania-là, c'était vraiment pour solidifier la legacy, si tu veux, d'Austin en tant que main eventer. Tu sais, mettons, il était déjà solide, là.
Ouais.
Mais je pense que vraiment, c'est le real deal, le WrestleMania guy, si tu veux, qu'on run the ball with it. Là.
Genre le poster boy, si on veut. Là.
Ouais, tu sais, il a battu Michaels, là, il a battu The Rock.
Ouais.
L'année d'après, c'était WrestleMania 2000, il était pas là, il était blessé.
Ouais.
Fait que 2001, a gagné le Rumble, on le sait, puis...
Yeah, après le combat, il y a Vince McMahon qui mange une shot d'Austin.
Ouais.
Et Austin fait un toast avec Earl Hebner, l'arbitre, puis il verse un peu de sa bière sur Vince. Vince qui fait un beau sel comme d'habitude.
Ouais.
Puis il célèbre sur Vince, il met un pied dessus, puis il lève les bras dans les airs avec la ceinture. C'est le même qu'on termine WrestleMania 15. Puis le match est excellent.
Oui, oui, oui. Un gros main event attendu. Là.
Ouais, je disais que c'est le match le plus faible des trois qu'ils ont fait, mais le match le plus faible est un match quand même for 5 stars quand même.
Ouais. En plus, à cette époque-là, je pense que ça a dû diviser bien des chums dans le cours d'école, dans le sens où t'avais sûrement une partie qui prenait pour The Rock, l'autre pour Austin, parce que c'était vraiment les deux plus gros populaires.
Mm-hmm.
Puis Austin n'a jamais été méchant, c'était plus un gars qui s'en fout de tout le monde. The Rock était méchant, mais il était tellement cool que des imitations de The Rock, des chemises, des lumières, le fameux People's Eyebrow, tout ça, que tout le monde faisait. Fait que ça a dû diviser bien du monde. J'ai pas remarqué vraiment la foule si. Ben, la foule était plus du côté de d'Austin.
Oui, oui, en effet, oui.
Mais tu sais, mettons, tu referais ce match-là aujourd'hui, ça serait une foule 50-50. Là.
Ouais, quand même.
Je pense, là, parce que la foule à ce soir est plus tweener, si on veut, ou bien à chance de bord, puis. Ou à l'encourage de légende, ça.
Ouais, il y a ça.
Plus dans ce.
Non, je suis d'accord.
Ouais.
Fait que c'est ça, WrestleMania 15 est terminé. Là, on est rendu à donner notre note, évidemment.
Oh.
Tu veux-tu commencer?
Ouais, hein?
Comment tu commences d'habitude?
Ok, moi, je vais lui donner un 7 sur 10.
Bon, ben, c'est le fun que t'en parles. C'est la même note que moi.
Oh, tabarnak, on s'entend ben tôt, c'est un site.
J'ai pensé, ben ouais, mais là, j'ai pensé à un 6.5, mais je me dis, ah, il y a quand même eu trois bons matchs là-dedans. Là. Ça mérite le 0.5 de plus. Là.
Ouais, puis c'est quand même un WrestleMania assez mémorable. Tu sais, on s'en souvient, je pense. Là.
Ouais.
Toi, moi, c'est quand tu me dis, mettons, WrestleMania 15, j'ai des flashs assez récents. De, ok, ouais, il est arrivé ça, puis.
Ouais, mais moi, j'ai le flash qui m'est en premier, évidemment, c'est X-Pac contre Shane.
Ouais.
Et c'est pour ça. Que mon match de la soirée, c'est ma combat-là, justement.
Ah ouais?
Oui, c'est mon match que j'ai aimé le plus.
Hey, c'est...
Il y a quand même trois bons candidats quand même dans le show, là.
Ouais. Moi, je vais y aller avec le championnat intercontinental.
Ah oui? OK.
Ouais, ouais. Juste pour la qualité du match un peu. Moins peut-être le côté historique, mais ouais. Pour la qualité du match, je vais y aller avec ce match-là. J'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque, puis je me souvenais que j'avais, en le regardant, puis en recheckant aussi les vidéos, ouais. Parce qu'on avait déjà fait le preview, je me souvenais que ce match-là, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Fait que je vais y aller avec ce match-là. Ouais, okay. Avec ce match-là. Ouais. Okay. Le pire...
J'ai quasiment le goût de faire un ex-écho, mais... M'en prendre juste un. Là,
qui... Vas-y. Prends un, m'en prendre l'autre.
OK. M'en dire le combat féminin, moi.
OK. Moi, je vais dire le combat féminin aussi, parce que c'était de la
merde. Ah, mais Colin!
Ouais.
Fait que c'est ça, puis tu le recommandes-tu ce jour-là, toi?
Oui, absolument. Je pense que pour l'historique Rock Austin, il faut que tu regardes ça.
Mm-hmm.
L'histoire expert Kane DX, ben l'histoire de DX en long en large, faut que tu regardes ça aussi.
Ça regardez la dernière heure, moi je dirais.
Ouais, ça vaut la peine. Puis je pense que c'est un des WrestleMania qu'il faut regarder. Je pense qu'il y en a qu'on peut skipper, mais celui-là, je pense qu'on peut le regarder.
Ouais, ok, je suis d'accord.
Ouais, ben je pense.
C'est ça. Ouais. Fait que WrestleMania 15 in the books. Qu'est-ce qui se passe?
Ben rien. Je te demande, oh, qu'est-ce qui se passe après ça? C'est le quiz?
Ben oui, après ça, on a rendu au quiz avec Dave.
Dave? Et voilà, mon chum Dave qui arrive de l'ABC.
Ah ben, Colin.
Dave s'en vient nous rejoindre dans, quoi, 30 secondes à peu près?
Parfait. Ben, qu'on met ça à toute l'émission de passer en attendant?
Mais non. Elle a assez joué. Elle est cool, la toune, mais...
Ben oui, bonne, la toune. Pas aussi bonne que celle des Beverly Brothers, mais bonne.
Le monde doit être écœuré de t'entendre parler des Beverly Brothers. Hein?
C'était hot, esti.
Hey, l'année prochaine, sais-tu quel WrestleMania qu'on va faire?
Je sais-tu, moi. On verra. Quelque chose qui serait le fun.
Hey, ouais, vas-y.
WrestleMania 3.
Hey, t'es fatiguant. Pourquoi 3?
Ben, Chris, c'est un des plus gros matchs de l'histoire, peut-être.
Avec Hogan puis.
André.
André. Oui. André Géant.
Pas juste ça. Un long match dans WrestleMania 3 qu'il y a eu qui est excellent.
Oui.
J'avais un intercontinental, Macho Man contre Ricky Steamboat.
Un des meilleurs matchs de tous les temps, je pense.
Oui, juste pour ça, ça vaut la peine. Fait que je prends ça en note dans ma tête, WrestleMania 3 l'année prochaine.
D'ailleurs, cette année, WrestleMania, je ne sais pas si tu as vu, ils ont libéré d'autres tickets. Il va y avoir pas mal de monde. Ça, je pense que ça va rendre tout intéressant. C'est pas cool pour la COVID, là. Je pense que ça va être touché.
Ouais.
Mais je pense que le côté ambiance.
Ah, oh, ça a toujours un gros plus, c'est sûr. Là, avec plus de vrais gens dans la foule, mais en même temps.
T'es-tu hype pour cette année?
Pas encore.
Pas encore?
Mais que je cherche plus la carte, peut-être.
Moi, je suis pas tant hype niveau storyline, je te dirais. Mm-hmm. Mais par contre, je pense que les côté match, je pense que ça va être une des meilleures cartes.
Es-tu d'accord qu'il fasse encore deux soirées?
Ouais, pas tellement.
Ouais, ben en même temps. Il y a tellement de matchs sur la carte que tu n'as comme pas le choix de faire des concessions. Fait que... Mais bon.
Ouais. Moi, je trouve ça dommage qu'au niveau de ce qu'on est rendu, que AJ Styles n'a même pas de match encore sur la carte.
Non, c'est sûr, mais éventuellement, il va trouver sa storyline bien à lui. Là, comme en ce moment, je n'ai aucune idée parce qu'il est pas mal contre tout le monde. Là.
J'ai bien l'impression que ça va être contre Triple H, moi.
Ouais, il me semble que. En tout cas, je sais pas. Il me semble que c'est. Il reste pas grand temps à faire une storyline dans même contre Triple H, je trouve.
Ouais.
Mais bon, on va bien voir à WrestleMania qu'est-ce que l'avenir réserve pour monsieur le phénoménal AJ Styles.
Ouais. Fait que là, Dave, on l'attend. Mais en attendant que Dave soit là, on va remercier encore notre commanditaire Gourou.
Oui, en effet.
Depuis 1999, boisson biologique, organique, biologique, québécoise.
En vente partout.
En vente partout. Si vous ne voulez pas voir notre face, ben, vous pouvez écouter le podcast où, TJ?
Et pour voir notre face, c'est sur YouTube. Et puis pour ne pas la voir, c'est sur Spotify, Apple Podcasts, Podbean et Balado Québec.
Il y a bien trop d'applications. On va se perdre.
Ben, trouve-toi une carte.
Ça n'existe plus des cartes à ça, c'est des téléphones.
C'est vrai, des Google Maps.
Et là, coudonc, il est en train de faire un FaceTime avec Billy Gunn, lui?
Oui, il finit son quiz, je pense.
Il arrête de finir son quiz. On va régler ça tout de suite avant qu'il arrive. Tu commences ou je commence?
On va commencer.
OK.
Pourquoi t'es pas, t'as pas l'air sûr? Tu peux commencer si tu veux, me dérange pas.
C'est correct.
C'est quoi le quiz? T'as-tu un scoop?
D'après moi, c'est WrestleMania.
Ouais, logiquement.
Mais là, on en parle souvent de WrestleMania à un moment donné, les questions. J'espère qu'ils gardent son petit cahier parce que.
À force de faire trois reviews, un preview et un review à un moment donné.
Parce que moi, c'est plus pour toi. Des fois, je pourrais. Ben, quoi que moi, souvent, je pourrais me poser la même question trois fois, je vais en manquer. Là.
Ouais, il y a ça. Ouais. là, c'est un peu gênant, là.
De quoi?
Ben, là, qu'on attend.
C'est un podcast, on parle. C'était correct.
Tu as passé une belle semaine?
Ouais, comme d'habitude. Hein.
D'un couche?
D'un couche, je fais des podcasts. C'est ça. J'ai inscrit ma fille au séminaire de lutte. Écoute,
oui, lequel?
Ouais, ouais. Hein?
Lequel?
Celui de... Comment il s'appelle déjà? Joey Ryan. Non, c'est une blague.
Sacre.
C'est pas
vrai. Oui, Dave, là.
Hey, j'ai une histoire, moi, avec Joey Ryan.
Ouais, donc?
Mais Joey Ryan, qui, pour ceux qui ne savent pas, était dans le mouvement Me Too. Mm-hmm. Puis, en tout cas, faites bien des niaiseries. À l'époque, je luttais. Il y a un moment donné où que j'ai pensé aller plus loin, mais je ne voulais pas lutter au Québec. Je voulais vraiment aller lutter comme aux États-Unis parce que je trouvais ça cool de voyager. Puis, en tout cas, tout le kit, comme n'importe qui a fait de la lutte.
Mm-hmm.
Puis, j'avais rentré en contact avec Joey Ryan parce qu'il y avait une école où il faisait partie d'un truc en Californie. Puis, en tout cas, il m'avait dit, pendant que Dave arrive, il m'avait dit, si tu veux, tu vas pouvoir... cherche une place, je peux te loger.
OK.
Il m'avait offert de me loger. Puis pendant que je faisais mes cours là-bas, tu sais, j'avais pas été évidemment parce que le salaire, tout ce qui vient avec. Là.
Ouais.
Mais quand on sait qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Chris, tu sais, j'aurais pu me faire abuser par Joey Ryan. Carlis.
Je pense pas qu'il abusait les hommes. Là.
Moi, je pense qu'un abuseur, c'est un abuseur. Là. Hey, salut Dave!
Allô?
Pas un bon segway, ça.
T'es arrivé au bon moment.
ça parle d'abus ici dedans. Qu'est-ce qui se passe?
Ah, je disais que.
C'est Mark qui m'a raconté son enfance. Là.
Je disais que j'avais déjà parlé avec Joey Ryan pour aller. Puisque dans le temps, qu'il y avait une école de lutte en Californie. Puis je voulais aller là à cause des Kings et tout ça. Puis il y avait une école de lutte qui m'avait offert de payer une pension pour rester chez eux.
Hum. Mm.
Dans un email, puis j'avais pas été parce que ça coûtait cher, puis j'étais pas secure avec ça non plus, mais quand, avec l'affaire qu'on sait aujourd'hui, c'est drôle quand même. Ben, c'est pas drôle.
Mais... ouais, c'est
ouais. Ouais, c'est ça. C'est juste ça.
Pendant qu'on t'attendait, on a pensé qu'il était pour sortir le quiz, et c'est moi.
Ah ouais, on a même pas rien dit.
De quoi?
Anyway, je m'en fous.
C'est... Oui, on l'a dit, là. T'as dit que c'est moi, on a dit que c'est moi qui commençais.
Là, je travaille sur ma confiance en ce moment, c'est pas facile.
Build it from the ground up.
Ouais. WrestleMania 15 aujourd'hui qu'on a fait, Dave.
Ouais. As-tu des memories là?
Billy Gunn Ever Match.
Ouh, c'est intéressant. C'était quoi déjà?
Son match à Billy Gunn, c'était un combat hardcore avec Al Snow et Hardcore Lee.
Ah, OK.
C'était l'opener du show en plus.
Ouais.
Ah.
Ses belles culottes roses.
Sinon, le main event, c'est The Rock contre Austin, évidemment.
Hein?
Mm-hmm.
Ici, la pendaison de crémaillère de Big Boss Man.
Oui, 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 oui.
Moment classique, hein?
Moment classique qu'on avait vu chez Marc André.
Oui,
oui. C'est vrai.
Ouais, disons que, ouais, c'est ça. Bref.
Attends, je veux juste demander une dernière affaire. Tu te souviens-tu de comment était habillé Tori dans le temps? Elle se battait contre Sable?
Non, je ne me souviens pas.
Elle avait le sou de Giant Gonzalez.
Ah, body padding. Ouais,
ouais,
oh, tout là. Un show, hein?
Oui, c'était vraiment.
Mais, hein.
Bref, t'as un quiz, Dave, pour nous?
Oui, j'ai un
non,
quiz.
Allez,
non, j'étais juste venu vous dire que je n'avais pas, finalement.
C'était malade. J'aurais aimé ça que Dave mette une photo de Freddy Blassie en arrière.
Mais...
Non, ok. Random
comme demande.
Ouais, je sais. Mm-hmm.
Ok, bon, mais c'est qui commence, t'as dit?
Ok, déstabilité. Okay, tu peux y aller.
Question Uno.
Oui.
Player Uno.
Ok. Combien de pay-per-view ont-ils eu lieu à Montréal?
Oh shit.
WWE, bien sûr.
Ouais.
Là, demande pas un choix de réponse, c'est juste un chiffre.
On va dire 4.
Droit de réplique.
Il y en a un là-dedans, j'oublie, c'est sûr, parce que je vais dire 3.
Bonne réponse.
T'es sûr?
Ouais.
Oui.
Il y a eu Survivor Series 97.
Ouais.
Que tu étais là. Il y a eu le dernier, que je me trompe tout le temps le nom, là, qu'on était ensemble.
Il y avait No Way Out et Breaking Point, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Il n'y avait pas un autre?
Non.
Non.
Ah ben. Color me shocked.
No Way Out avec Triple H contre Scott Steiner dans le main event.
Ouais. Avec la posture de Jeff Hardy en train de se naïve.
Puis avec Bring Me to Life comme chanson thème.
En effet, oui.
OK. Bon, ben, le. Deuxième question.
T'as déjà commencé même une couple de fois, tu sais, qui est arrivé
après. Ouais, là,
bon, ben, justement, c'était quel le premier pay-per-view qu'il y a eu à Montréal?
Survivor Series 97.
Bon. D'accord.
Ouais.
Ah non, c'est correct.
C'est ça la réponse?
Bon. Ouais.
C'est 2-0?
Oui.
Tu fasses une petite curveball pour commencer, évidemment.
OK, bon. Survivor Series 97.
Oh, ben là.
Ah, oui, vas-y.
Qui a été les partenaires de LOD dans leur combat contre la Nation of Domination?
C'était Ken Shamrock et Ahmed Johnson.
Bonne réponse. OK.
Je m'arrête bien étonné que tu manques une question de Survivor Series 97.
En effet.
Tu vas en avoir une, toi, avec.
Ouais, moi, je n'ai rien dit pour moi. Je ne suis pas parlé de lui.
À Survivor Series 97, dans le combat Team Canada contre Team USA, qui étaient les membres de Team Canada?
Ah, tabarnak. On l'a fait le review en plus de ça.
Mm-hmm.
OK, il faut juste que je me rappelle des noms. Ah, pas que ça va être 2-2, c'est sûr. C'est quoi ce bruit-là?
La foule qui t'encourage.
Non, c'est parce que... Tu sais, quand t'as un nom dans la tête qui sort pas, là, tu le sais, là. Ça fait chier. Parce que là, je cherche les deux autres.
Oh, ouais, tu gagnes du temps, là, ouais, là.
Non, je gagne pas de temps. OK. Lafond Furnace.
Mm-hmm.
Puis... Il était 5, je pense, en plus. Lafond Furnace. Oh, il y en a un, c'est même pas un Canadien, je pense, dedans.
Ben, pour le dire, il y en a 4.
OK.
Il n'y en a pas 5.
Lafond Furnace, puis je vais dire. Oh non, j'ai un blanc, je sais pas. Je vais dire n'importe quoi. Je vais dire. Le Anvil Night Art, puis Bulldog.
Et voilà.
Bonne réponse.
C'est facile, celle-là.
OK, ben vrai. Tabarnak, je suis pas prêt, pareil.
Ben oui, écrit, j'espère, c'est super facile, eux autres.
Ouais, pour vrai, là, quand tu as posé la question, je me souvenais de Lafond Furnace, that's it.
Je pensais que t'as pour dire peut-être Owen Hart à la place de quelqu'un d'autre.
Ouais, j'ai pensé.
Je sais.
War, c'est ça?
War, ouais.
C'est à la mois prochaine?
Non,
c'est à toi, hein?
Ouais.
OK, parfait.
Okay. No Way Out 2003. Contre qui Steve Austin s'est battu?
Contre Eric Bischoff.
Bonne réponse.
C'est son grand retour à Austin.
Avec toi. Est-ce que c'est à la fin qu'il a mis dans les vidanges?
Non, c'est pas après ça.
OK.
Steve Vince l'a mis dans les vidanges.
Ouais, c'est vrai.
No Way Out 2003, c'était aussi à Montréal. Là.
Ouais, c'est vrai.
Justement, encore dans No Way Out 2003, dans le match tag team, excusez, dans le match pour le championnat tag team, il y a un des quatre lutteurs qui s'est fait knocker par un body slam. C'était qui?
Tu sais, toi?
L'égalité, ça vient.
Ah,
faut qu'il se rappelle du match en partant aussi.
Ouais,
c'est plus ça le bourreau. Là.
Ouais, c'est ça. Parce que le reste, je pense que ça boit les quatre participants, je pense que je l'aurais eu. Mais...
Ouais, sûrement.
Je vais dire Landstorm.
Oh, t'étais pas loin.
Droit de réplique.
William Regal, son partner.
Oui. C'est fait faire Body Slam par Kane.
Ouais, c'était contre Kane puis RVD.
Ça va bien ou quoi?
Il a été knocké pendant un petit bout. Il est revenu, il a fini le match, là, par exemple.
Ouais.
Comme un vrai de vrai.
Ben, ouais. Vrai, lui.
Ben, c'est un assez bon tag team, ça, Landstorm et Regal ensemble.
Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Oui, un beau tag team tag.
Oui, c'est 3-3.
Bon. Hey, je te vois, tu sais, t'as pas COVID, toi?
Non, non, je me suis étouffé, c'est tout. Super,
c'est à 2 mètres de nous autres.
Oui, c'est facile.
Mal plus, même. OK. Breaking Point 2009. C'était quoi le main event?
Ça, c'est celui à Montréal, hein?
Oui.
C'était qui, là, c'était Marc?
Ouais.
Oui.
Non, pas moi.
C'est quoi la dernière question qu'on a eue? Ah oui, c'était Regal.
Ouais, hein? C'est à toi, TG.
C'est à moi.
On a parlé dans le 2-3 podcast de ça en plus, je pense.
C'était pas. C'était LNSL, je pense. Je suis pas sûr que c'est ça. Là. Parce que c'était pas LNSL, en tout cas, je vais chez les deux lutteurs, c'est dedans, c'est qui là? C'était pas CM Punk puis Undertaker?
Bonne réponse. C'était ouais, un submission match.
Ouais, puis il y avait un screwjob de Teddy Long à la fin.
OK. Le
screwjob revient beaucoup aujourd'hui, hein?
Ouais.
Comment?
Le screwjob revient beaucoup aujourd'hui.
Ouais. En parlant de ça, okay. T'arrives de me faire screwer, moi?
Question Ocho, ouais, avec, c'est le retour de l'ascenseur. Là. Question Ocho.
J'ai des marches, t'as pas d'ascenseur.
Toujours à Breaking Point 2009. Quelle était la stipulation pour le combat Kane contre The Great Khali?
Si, ouais.
Une stipulation de vente. Ça, c'est-tu, toi, TJ? Juste pour le fun, mettre de la pression.
De même, vite de même, je pense pas. J'ai une idée, mais je suis pas sûr. Okay.
Je vais. Je ne voudrais pas que ce soit ça, mais on sait jamais. Je vais dire un strap match.
Non, pas de réplique.
Il n'y avait pas un des deux qui s'avait fait étrangler avec un genre de gros crochet, là, comme il y avait dans son film Sino.
Ah, oh, ouais, c'est ça, c'est.
Mais c'était pas sa stipulation.
Non.
Non, je sais, mais c'est pas ça, j'ai pas de stipulation non plus. Mais...
Mm-hmm. See no evil. avec le maire.
C'était pas un last man standing?
Non.
Non.
Yes. Réplique?
Ben non, c'était moi
la première. Tu l'as fait déjà, toi.
Ouais, c'est ça, exact.
C'était un combat Singapore Kane.
Oh, Singapore Kane.
Bon, Singapore puis Kane, c'est bon ça. Eh ben. Question de Webby.
Quand même pas pire. OK. Encore à Breaking Point. 2009. Contre qui s'est battu DX?
Ah, je sais.
2009 ou 2003?
2009.
Okay. C'est moi la réponse. Hein?
Ah, je sais.
OK. Non, je veux juste m'en rappeler. Je ne suis pas sûr. C'était contre Cody Rhodes puis peut-être DiBiase.
Exactement. Bonne réponse.
It's a new day. It's a new generation.
Question. Attends, juste un petit moment parce que vous avez répondu à une question que j'avais écrite sans le savoir.
Je pense qu'il y en reste juste une en plus.
Ouais, question 10.
Il y en reste juste une, mais vous l'aviez déjà répondu. Fait que je vais en trouver un autre.
Bravo, non, TJ, pour la victoire encore. T'as plus le fun, là, au moins c'était plus serré.
Disons que la première mauvaise réponse, ça m'a comme seté pour que tu aies deux bonnes réponses.
Non, mais c'est correct, c'est plus serré.
Ah, c'est bien.
Ouais, puis là, moi, je suis content, ça m'a redonné un peu de confiance.
C'est vrai.
Oui, fait qu'on va pouvoir souper en paix.
OK. Je sais pas si c'était à qui, là. J'ai perdu un peu le fil. C'était à qui?
À moi, je pense.
Ouais, toi, question okay. Yes.
À Breaking Point 2009, contre qui s'est battu les champions par équipe? Jericho.
Oh! C'était pas contre Shane puis Vince?
Non. Non.
What? Mais non.
Non, il n'y a pas de Jerry ce match-là?
Ben, je pense pas. Là.
OK.
J'hésite en deux équipes, est-ce-t-il. Oh. On va dire MVP puis Mark Henry.
Bonne réponse.
J'hésite en deux autres ou Ben Morrison puis R-Truth.
Tabarnak, dégueulasse comme team, ça.
Ah, ben, pour 5 à 3.
Non, 6-3.
Non, je l'ai manqué une.
C'est ça?
Non, je l'ai manqué. On a marqué.
Non, juste une.
Ah, ben d'accord. Parfait. Eh bien.
Je compte les points. Quand je suis en avance, j'ai compte.
Diantre!
Tabarnak!
C'était un résumé des pay-per-views qu'il y a eu à Montréal.
Ah, c'est une bonne thématique.
Bon thème.
Il est bon, Dave, les quiz. On est tout le temps.
Les premiers étaient faciles parce que Survivor Series, c'était comme.
Ouais, j'aurais pas manqué une là-dessus, par exemple. Oui.
Le deuxième, tu veux dire?
C'est quand même le plus connu des ouais. pay-per-views qu'il y a eu à Montréal, là, avec la finale exact, la finale qu'on sait.
Ouais. J'ai toujours pensé qu'il y en avait un quatrième. Je ne sais pas pourquoi.
Deux?
Non.
Supervu à Montréal. J'avais les deux. J'avais les trois premiers, mais il me semble que dans ma tête, il y en avait un autre. En tout cas.
Ben, il y a beaucoup de Raw et SmackDown qui sont...
Oui, dans les faves.
Il y a un show.
Ouais, ça, il y en a une chante trollée.
Oui.
Parfait. Ben, merci du quiz, Dave.
Mais pas de trouble.
Puis c'est ça, on a passé, on a dit, on t'a demandé des impressions sur WrestleMania 15, quand même, on vient de faire reviewing.
Oui.
Fait que c'est ça. Tu quoi à dire, Marc, pour ta défense?
Non, je suis content.
Ah, OK. Je suis
content d'avoir perdu 6-3.
T'as bien performé, pareil.
C'est plus serré ici que dans le jeu d'NHL quand je joue contre l'ordinateur.
Ouais, quand c'est genre 8-5, là.
Ben, c'est ça, c'est pas cool, ça. Si je veux jouer au football, je vais mettre Madden, je ne mettrai pas NHL, Chris.
C'est vrai. T'as pas tort.
Excusez. Je me sens emporté.
Ouais. Fait que c'est ça. Merci à tout le monde. Évidemment, on a des prochains rendez-vous qui s'en viennent bientôt.
Ben ouais, oui, moi j'en ai un mardi avec la petite. Là.
Ah, bravo. Okay. Alors, on a WrestleMania 8 et WrestleMania 30. Je parlais pour le podcast, pas dans
la WrestleMania 8, c'est la semaine prochaine.
Ben oui, WrestleMania 8, c'est ça. Dans mon livre à moi, c'est bientôt ça.
T'as tout vraiment un livre, ouais.
Puis là.
Ok, parfait.
À moi, t'as Tania.
C'est vrai.
Ça, c'est celui qui s'en vient, évidemment, le preview de WrestleMania des deux soirées et aussi le review par longtemps après ça. Preview, Dave, tu vas être avec nous autres?
Oui, bien sûr.
On va essayer d'avoir Alfredo et Alex aussi.
Oui.
Puis pour savoir qui va être dans le podcast, puis n'importe quelle autre information sur En deux chaises de métal, c'est sur Facebook que ça se passe. Et oui. Évidemment, écouter le podcast sur YouTube, Apple, Spotify, Podbean et Balado Québec. Beaucoup d'affaires à dire.
Oui.
Ça n'arrête pas.
Ouais. Fait que c'est ça. Un mot de la fin, les gars?
Pas beaucoup. Mais non, pas de mot de fin.
On a dit pas mal, je trouve.
Au début du podcast, on a dit la semaine prochaine, mais c'est erroné comme information. C'est demain.
Okay, je prends un calendrier humain. Là.
L'annonce.
Ben ouais, j'ai parlé des prochains podcasts, j'ai pas dit l'annonce.
OK, parfait. La fameuse annonce sur Facebook.
Oui, le 21 mars.
Ça s'en vient, 21 mars. Deux jours après la fête de Dave.
Oui.
Pour vrai? Oh, bonne fête en avance.
Ben, c'est Chris, tu diras le 19, là. Attends, Carlis.
C'est le plat.
OK, d'accord. On va faire un gros post sur Facebook pour célébrer la fête de Dave.
Là, tu vas enlever tout ce qu'il y a de ton esti d'agenda qui n'est pas important, puis tu vas faire ça à la place, OK?
Ouais, c'est ça. On va faire un quiz sur la vie de Dave. 10 questions sur la vie de Dave.
Oh, la discographie.
Oui, exactement. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté. Puis en mon nom à moi, Dave et Marc,
oui.
Bonne soirée. Et n'oubliez pas de m'écrire sur Facebook. Salut.
Salut.